ونختم دورتنا بالأسئلة المقدمة لنا فيما تبقى من الوقت للساعة 9 إن شاء الله. بارك الله فيكم.
Donc le cheikh, hafizahullah, sur ce dernier hadith, que par la grâce d'Allah Azza wa Jalla, on a pu étudier tous ensemble avec le cheikh, hafizahullah, nasallallahu Azza wa Jalla an yaziyahu anna khairan, le fait que nous avons donc clôturé le livre des Adab et le chapitre suivant de Riyad al-Salahin, c'est le chapitre lié à la visite des malades et le fait d'enterrer nos défunts. Et donc on demande à Allah Azza wa Jalla de récompenser bien le cheikh. Il dit donc nous allons nous arrêter là et nous serons peut-être amenés dans une autre dawra, peut-être à poursuivre dans Riyad al-Salahin la prochaine fois. Et il dit nous allons nous arrêter là dans Riyad al-Salahin, mais nous allons à présent aborder des questions et des réponses. Et déjà, on a déjà un joli tas, mashallah, qui nous a été apporté. Donc il y a pas mal de travail pour le traducteur, mashallah. Et le cheikh a dit que cette assise va se prolonger jusqu'à 9h, inshallah ta'ala. Donc soyez patients, c'est la dernière assise. C'est la dernière assise, inshallah, qu'Allah vous accorde le ajr ainsi qu'à nous. Soit l'awwal, cheikhana. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Iza istazantu wa la usta'zin ilayya, dukhul, ba'da salasat marrat, istazant salasat marrat. Hal arji' ولكن دائم لا أرجع أبدا إلى هذا البيت.
لا ما
أو فقط في اليوم. لا لا. ليوم واحد.
إذا استأذنت ولم يؤذن لك لا تغضب، لأن هذا في خير لك ولهم، مثل ما جاء في الآية، فإن هذا في خير. وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا ذلك أزكى لكم، فلا تغضب وارجع مرة أخرى ثانية ثالثة خاصة، إلا إذا علمت أنهم لا يريدونك أن تأتي ولمحوا لك بذلك وقالوا خلاص انتهي. الحمد لله. نعم.
Donc le cheikh hafizahullah il dit tu demandes la permission d'entrer comme il a été légiféré de le faire à 3 reprises et s'il ne t'est pas accordé l'autorisation de rentrer ne te mets pas en colère et reviens d'où tu vas comme il est mentionné dans le Coran. Allah Azza wa Jalla nous a dit et s'il nous est dit de retourner alors retournez, ceci est meilleur pour vous, c'est à dire qu'il y a un khair pour nous inshallah ta'ala. Et il dit et tu peux être amené à repasser plus tard etc. une autre fois, il n'y a pas de mal à cela, sauf si tu sais qu'il ne t'est pas octroyé permission d'entrer parce que tu sais que la personne qui réside dedans ne veut pas que tu rentres, c'est-à-dire pour une quelconque raison que soit tu sais qu'il ne veut pas que tu rentres. Donc dans ce cas-là, tu n'as pas à revenir parce que tu sais que ton premier refus est lié au fait qu'il ne veut absolument pas que tu rentres chez lui.
Hein?
Et c'est quoi ça? On va se faire jouer.
La question c'était
quoi? Ok. La description de la roquette. La description de la roquette prophétique. Et ça, c'est une question, c'est long, on va faire une assise dessus.
Non, la question juste avant.
Ah, j'ai pas entendu la question. Ah, Stéphane, excusez-moi. Excusez-moi. En fait, comme j'ai lu en français, dans ma tête, c'est passé comme ça. Excusez-moi, Aïkho. Voilà comment je fais. Donc la question c'était quand une personne nous refuse l'entrée 3 fois, est-ce qu'on repart juste pour ce jour-là ou c'est à tout jamais, donc on ne revient plus jamais à cette maison. Donc là le cheikh, je réitère la réponse pour que ça ait du sens, inchallah. Le fait que donc le cheikh il dit tu demandes à 3 fois la permission d'entrée, si elle ne t'est pas accordée tu repars d'où tu viens car ceci est meilleur pour toi, il y a un khair inchallah comme Allah l'a mentionné dans le Coran, si on vous dit de retourner vous retournez. Et tu peux être amené à revenir une autre fois, il n'y a pas de problème, sauf si tu sais que le premier refus que tu as eu, c'est-à-dire que tu as demandé 3 fois, on ne t'a pas laissé entrer, parce que tu sais que l'occupant de cette maison, il ne veut absolument pas que tu rentres. Pour une raison ou pour une autre, il ne veut pas que tu rentres. Tu sais que ce n'est pas la peine avec lui, donc dans ce cas-là, non, tu ne reviens pas. Et tu ne redemandes pas à nouveau permission d'entrer. Non, Cheikh Alain. Assalamu alaikum. Yani, fi mas'ala tamayyuz. Yani, tamayyuz baynana wa baynan, yani, mukhalafa, yani, ahlul kitab ilakhiri. كيف ناتي بهذا يعني التفرق بيننا وبينهم فيما يتعلق بالختان؟
ختان
ختان الفرج يعني الصغير السن.
اي
يعني عندهم هذا اليهود مثلا.
اي نعم. هذا الختان وارد في ما جاء في شريعة موسى عليه السلام، شريعة اليهود موجود فيها، وشريعة النصارى هي متممة شريعة اليهود، ولذلك الإنجيل لم تأتي فيه أحكام جديدة إنما جاء فيه مواعظ. فشريعة اليهود نزلت على موسى عليه السلام، ثم يعني نزلت التوراة عليه، وهكذا نزلت بعد ذلك شريعة النصارى عيسى عليه السلام كتاب الإنجيل متممة. فكان لهم أن يأخذوا هذا من أحكام التوراة، لكن خالفوهم فلم يقروا الختان، جاء النبي عليه الصلاة والسلام محمد عليه الصلاة والسلام وأقر الختان، أقر الختان في الرجال وفي النساء، لكن الرجال يعني واجب الختان لأنه متعلق بالطهارة. الرجل إذا كان بلغ سن الرشد وصلى لابد يتطهر، ومن كمال الطهارة أن يختم، حتى يعني إذا توضأ وغسل فرجه لم تبقى نجاسة معلقة، لأن الختان هناك في حشفة، حشفة على رأس الذكر تمنع من طهارة رأس الذكر فتظل في نجاسة معلقة فيصير عنده قصور في الطهارة. فأمر الرسول بالختان وأوجبه، هذا بما يتعلق بالرجال. أما النساء فليس في الإسلام وجوبا أن تختن المرأة، ما في وجوب، لكن ذكر يعني الصحابة رضي الله عليهم في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أمر بامرأة من الصحابة أنها تنظر، كانت تختن في زمن الجاهلية تختن للنساء، فقال لها إذا أتي عليك بالبنت فانظري، فإذا رأيت كعرف الديك فأشمي. إيش معنى الكلام؟ يعني إذا جاءت المرأة ببنتها تريد يعني مثلا ختان مختان، قال انظري إلى فرجها، فإذا رأيت كعرف الديك يعني موضع البضر، بضرة اللي تعلق بالمرأة، لكل مرأة لها بضرة في فرجها، فإذا رأيت بضرة عالية كعرف الديك، الديك عرف مبارز، فأشم يعني خففي، خففي. فدل على أنه السنة إذا كان كعرف الديك عالي أن يخفف، ولا دعي تركيها. وهذا يعني له واقع في حياة الناس، والذي أدى بالناس أنهم يختنون النساء العادات والتقاليد، حتى بعض النساء أو بعض مجتمعات المسلمين، وكنت أعيش في بلادنا ممن يفعلون ذلك، كانوا إذا كان يريدون ختان المرأة يربطونها بشجرة أيام وليالي مربوطة، ويختنون لها ختان جامد ويخيطون ويفعلون المجمل مش عارف حتى يقفل المكان، ويبقى أيام سنتين كلاوي، إذا جاء زوجها يبغى ينكحها يجلس له كم أيام حرب، ويبغى له شيء كم السيف، هذا ما يجوز، هذا من ظلم المرأة. ثم قعر البذرة هذا يعني يفقدها الشهوة، لأن شهوة المرأة في البذرة هذه، فهذا لا ينبغي، بل ينبغي النظر مثل ما أخبر الرسول. إذا كان هناك شيء زيادة، لأن زيادة تقول إذا زادت البذرة تصير المرأة غلمة، عندها غلامة، الغلامة أي معنى عندها شهوة تؤذيها وتجعلها تتطلع إلى شيء من هذه الأمور، فهنا تخفف في هذا السن الصغير، وإلا فيتركها. وأما الرجال كما قلنا، نعم.
طيب. La question c'était par rapport au fait qu'on doit se différencier des gens du livre, en particulier les Yahoud, et comment on se différencie d'eux dans ce qui est du sujet de ce qu'on appelle la circoncision. La circoncision, pour le rappel, pour que les termes soient clairs, c'est le fait que l'enfant, en jeune âge, on procède à l'ablation du prépuce. C'est-à-dire que le prépuce, c'est la partie de surplus de peau qui se trouve au niveau du phallus du jeune garçon, est découpée au ciseau, puis elle cicatrise, etc., dans son jeune âge, et en vue d'une quête de propreté, de parachèvement de la propreté. Le cheikh, hafidhahullah, il explique que la circoncision est présente dans la Torah. Présente dans la Torah, la législation qui fut révélée sur Moussa, alayhi salatu wa salam. Puis, et cette législation est descendue sur les juifs. Et cette législation, après, a été complétée par la ce qui était présent dans la révélation de Isa. La Isa est venue avec l'évangile, l'Injil, qui est venue compléter la Torah, qui était présente dans le peuple juif précédemment, avant lui, à travers le biais de Moussa, alayhi salatu wa salam. Cependant, il spécifie que la sharia de Moussa était une législation dans la Torah, mais que l'Injil ne contient pas de ahkam, ne contient pas de règles légiférées liées aux adorations, mais plutôt ce qu'on appelle des mawa'id, des rappels et des exhortations. Naam. Et le fait que, donc ça se spécifie, fait partie de la religion de pratiquée par Moussa et Isa. Mais les gens qui s'affiliaient à Isa, parmi les chrétiens, ont délaissé la pratique de la circoncision. Et ceci a été accompli et affirmé par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit cependant, sur le sujet de la circoncision, il y a deux types de circoncision. La circoncision qui est faite à l'homme, la circoncision qui est faite à la femme. Il dit la circoncision du mâle, de l'homme, c'est obligatoire, c'est une obligation. Il dit ceci parce que c'est lié à la complexion, le parachèvement de la purification. Pourquoi ? Car la personne, lorsqu'elle accomplit le wudu et qu'elle se purifie, elle doit également se purifier des souillures. Et le fait de se purifier des souillures amène à ce qu'on préforme ce qu'on appelle l'istinja. L'istinja étant le fait d'asperger le phallus de l'homme avec de l'eau afin de le purifier de ce qui reste d'urine dessus. Naam. De ce fait, il se peut que si la personne conserve son prépuce, c'est-à-dire que ce sera un excès de peau qui se trouvera au niveau du phallus, il se peut qu'il restera des souillures et donc ça lui cause du tort. Car comme vous savez, la personne se doit se purifier de toute forme de souillure avant l'accomplissement de la salah. Et il dit, donc son hukm c'est que c'est wajib, afin de se préserver de toute forme de souillure dans l'accomplissement de la salah. Il dit, quant à ce qui est au sujet des femmes, et là je vais devoir ajouter un peu de tafsir par rapport à ce que Shir a dit, afin d'éclaircir, parce qu'il y a une ambiguïté en France par rapport à ça, yani, par rapport à l'excision féminine, le sujet de l'excision. Car les gens font une confusion entre la circoncision féminine et l'excision. Le Shir, il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait recommandé à une femme d'accomplir la circoncision féminine si jamais elle venait à recevoir de la part d'Allah une fille. La circoncision légiférée dans la sharia, c'est le fait, si jamais elle venait à voir chez sa fille, il dit quand sa fille est née, qu'elle regarde ses parties intimes. C'est-à-dire les parties intimes de sa fille. Si elle voit qu'au-dessus du clitoris, qui est l'organe sexuel féminin, dans le sens l'organe qui permet de ressentir, d'éprouver du plaisir et de la stimulation sexuelle, et au-dessus de cela se trouve un excès de peau semblable à la crête du coq, donc dans une quête d'esthétisme, on peut être amené à découper ce surplus de peau qui est au-dessus du clitoris, afin d'amener une esthétique dans cela. Mais ce n'est pas le clitoris en lui-même qui est enlevé, car le fait de procéder à l'ablation du clitoris de la femme fait qu'elle est alors incapable d'éprouver de la jouissance lors du rapport avec son époux. Et c'est une injustice, c'est une oppression, c'est un crime à l'égard de la femme de procéder à l'ablation de son clitoris. On parle du surplus, du capuchon clitoridien qui se trouve au-dessus du clitoris, et si c'est un excès de peau, on l'enlève, ou sinon on peut le laisser. C'est juste dans un but esthétique, et le Shir a dit que ce n'est pas obligatoire. Car beaucoup de gens, parmi les gens qui ne se basent pas sur la pratique de l'islam authentique, pratiquent l'excision féminine d'une manière qui est une torture et c'est d'actes qui est immoraux dans le fait de procéder à l'ablation féminine, et ils enlèvent ce qui permet à la femme de jouir dans son mariage de son époux. Et ils font ça non pas en pratique religieuse, mais ils le font en suivant des coutumes dont l'islam n'a rien révélé à ce sujet-là. Et de ce fait, la femme est alors privée de jouissance et de stimulation sexuelle lors de son rapport. Et donc ceci est une oppression à l'égard de la femme, de pratiquer ce genre de choses. Donc le Cheikh a bien précisé, on procède dans la sunna à l'ablation du surplus de peau du capuchon clitoridien. Si il est semblable à la crête de coq, que c'est un surplus de peau, mais il n'y a pas de fait de procéder à l'ablation du clitoris. Ceci est interdit, et ceux qui pratiquent cela, ceci n'a rien à voir avec l'islam. في رمضان المؤذن في يعني إذا دخل وقت المغرب هل يؤذن ثم يفطر أو يفطر ثم يؤذن ودخل وقت المغرب.
بارك الله فيكم. لا ارتباط بين الإفطار وبين الأذان، ما في ارتباط. الأذان علامة على دخول الوقت، والصائم ينبغي أن يفطر إذا غابت الشمس. إذا غاب الشمس وجب على وجوب أن يفطر، لا يلزم أن يستغرب الأذان. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لبلال قم فاجدح لنا، أي إذن بالسبيل نشرب، قال رسول الله لا زال يعني الشمس ضوء، قال قم فاجدح لنا، قال رسول الله الشمس من هنا وأقبل الليل من هنا فقد أفطر الصائم، ما ذكر الأذان. إذن إذا حصل عندك اليقين لا تعمل إلا باليقين في هذا الموضع، أو غلبة الظن التي بمثابة اليقين أن المغرب أن الشمس قد غربت وغاب حاجب الشمس في الأفق، هنا أفطر، لا يلزمك تنتظر الأذان. الأذان هو علامة، لكن إذا كنت في موضع لا تستطيع تبين وعرفت أن هناك مؤذن يبين حال الغروب وانتظرت لا بأس. نعم.
يعني la question c'était par rapport au muadhin. Est-ce qu'il doit rompre son jeûne avant d'accomplir le adhan, ou est-ce qu'il fait le adhan et il rompt son jeûne par la suite alors que le maghrib est rentré dans son heure? C'est-à-dire que donc on peut rompre le chien. Il dit il n'y a pas de lien direct entre l'adhan et la rupture. Il n'y a pas un lien en fait entre les deux. Ce qui est lié, c'est le fait de procéder à la rupture une fois qu'on est certain que l'heure de Maghrib est rentrée dans son heure. C'est-à-dire qu'on est sorti de l'heure de l'Asr, on est rentré dans l'heure de Maghrib. Et ce n'est pas obligé que ce soit l'adhan qui nous stipule. Si la personne elle regarde dans le ciel et qu'elle voit que l'heure de Maghrib est rentrée dans son heure, même si le Mouadine n'a pas encore fait l'adhan, ils rompent. Ils rompent parce qu'il est certain, si il est certain que l'heure de Maghrib est rentrée dans son heure, ils rompent. Ce n'est pas le fait que, non, il doit attendre, même si le Mouadine, il y en a, tant qu'il n'a pas fait l'adhan, ils ne rompent pas. Mais il ramena le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna à Bilal, radhiyallahu anhu, de rapporter, de rompre par rapport au jeûne, tu vois, de rapporter par rapport au jeûne, par rapport à l'eau. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas stipulé l'adhan. Il n'a pas stipulé l'adhan. Il n'a pas dit fait l'adhan, puis après on va rompre. Il lui a intima par rapport au fait de rompre le jeûne, et il n'a pas mentionné l'adhan. Alors que c'est Bilal, radhiyallahu anhu, le mu'adhin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De ce fait, le shir, il dit, le lien, c'est le fait que tant qu'on a. On n'a pas la garantie, tant qu'on n'a pas la garantie que le jeûne est rentré dans son heure, on ne rompt pas. Mais dès que l'heure est rentrée, on rompt. Et soit on est certain par la vision, soit on est certain par rapport au mois Adjin.
تحديد سبع سنين ما أعلم شيء ذلي فيه لكن الدجال يخرج في هذا الزمن يعني مع وجود المهدي مع وجود المهدي في الشام الدجال يخرج من جهة يعني خراسان ومعه 70,000 من اليهود نعم في تقارب الزمن لكن كم مسافة الله أعلم
Donc la question, la première question, en fait, c'est une feuille sur laquelle il y a trois questions. On procède déjà à la première, bi'idhnillah ya azzawajal. Est-ce que le faux Messie, yani le Messie Ad-Dajjal, viendra directement après les 7 ans de règne du Mahdi? Cheikh Hafidhullah dit, concernant le fait de spécifier une durée de 7 ans, dit, sur ça on ne connaît pas de dalil, il n'y a pas de dalil par rapport à cette chose-là. Mais cependant, ce qui est avéré de la part des textes, c'est que le Messie Ad-Dajjal, surviendra, fera son apparition durant le règne du Mahdi, ça c'est vrai, durant le règne du Mahdi, et il surgira d'Aspahan accompagné de 70 000 juifs. Et non, soit la fini, yani fi akhir zaman, mada naf'al idha rufi'a al-'ilm, mada naf'al, kayfa naf'al idha rufi'a al-'ilm fi hadha az-zaman.
Al-'ilm sayurfa kama akhbar ar-rasul 'alayhi as-salatu was-salam. والقرآن سيرفع أيضا، سيستيقظ الناس في يوم ما، فلا يجدون في صدورهم قرآنا، يريد أن يصلي ما يعرف يقرأ الفاتحة، وسنين يقرأها، رفع من قلبه، ويفتح المصحف لا يرى إلا ورق أبيض، يرفع القرآن، والعلم أيضا سيرفع، والعلم هو القرآن والسنة، طيب هذا يقول ما أفعل إذا رفع القرآن، إذا رفع العلم، نقول لا تنتظر حتى يرفع. اعمل الآن لأن إذا رفع توقف انتهى العمل الآن قرب الساعة فاعمل بما يعني يتيسر مما بقي في علمك اعبد الله به فإن عجزت أنت معذور لأن الدين قد رفع الآن القرآن رفع كتاب الله وهو دليل ناشف في العبادة السنة يعني هنا العلم ينفع السنة فأنت معذور فأنت أكثر من العبادات قبل أن يأتي هذا اليوم وإذا جاء هذا اليوم ولم تتمكن من عبادة لأن القرآن رفع لأن أنت معذور نعم
Bon, il restait deux questions. Je vous lis les deux parce que les deux ont leur réponse. Bismillah et Azawajal dans la réponse du chef. Ça fait pas mal. Yani, dans la fin des temps, comment va-t-on faire si la science va être enlevée? La deuxième question, est-ce que le Coran va être effacé? La réponse se trouve dans les propos du chef. Ça fait pas mal. Le shir dit non, effectivement la science sera enlevée, ainsi que le Coran. Et la science, il a expliqué que la science c'est le Coran ou le Sunna. Et donc le Coran sera enlevé. C'est-à-dire qu'un jour, les gens vont se réveiller, ils voudront réciter le Coran dans la Fatiha dans la salat, ils ne pourront même pas le faire. Car le Coran sera enlevé, c'est-à-dire enlevé de la poitrine des gens. Les gens ne se rappelleront plus le Coran. Et ils regarderont dans les masahif, c'est-à-dire les livres qui contenaient la parole d'Allah, azouj, dans laquelle la parole d'Allah était inscrite, ils n'y verront que des feuilles blanches. Donc le Coran sera enlevé de la terre. Il n'y aura plus de Coran. Donc les gens, il dit, déjà comment, par rapport à la question de la personne qui a questionné sur cette affaire-là, sur le comment faire à ce moment-là, il dit déjà, toi ce que tu peux faire dès maintenant, vu que ça arrive à la fin des temps, il dit ce que tu peux faire dès maintenant c'est alors, applique le Coran wa Sunnah, pratique le Coran wa Sunnah, à la fin du salaf, il y a des pratiques c'est ta religion. Et après, si tu viens à vivre à cette époque-là, et que le Coran est enlevé, ce qui te reste de science, ce qui restera avec toi, tu le pratiqueras. Il n'y a pas le prophète qui a dit que la science, c'est le Coran et la Sunnah. Il dit, si te reste de la science après cela, alors dans ce cas, tu pratiques selon ce que tu sais. Et ce que tu n'as pas, ce que tu ne possèdes pas, alors dans ce cas, tu en es excusé. Ce n'est pas ta faute. Cheikh, non ?
ترتيب يعني بين العلم والنظافة البيت وتربية الأولاد ما هي المتقدمات يعني في هذه الأمور فيما يتعلق بالمرأة
طيب ترجم ترجم سؤال ولا تعليم خليه
طيب ترجم إن شاء الله la questionneuse de ce qu'on suppose qu'elle a les facilités dans ce qu'il est malgré elle demande en fait quelles sont les priorités dans le foyer pour une femme entre la science le fait de faire le ménage dans la maison l'éducation de l'enfant
المرأة وكل مسلم نقول أن العلم ينقسم إلى قسمين علم يقال له فرض عين لا ينفك مسلم ولا مسلمة أن يتعلم أن يدعه لا بد أن يتعلم وآخر فرض كفاية فالمسلم سواء كان امرأة أو رجل عليه دائما يبدأ بفروض العيان بالفروض التي لابد أن يتعلمها لأن هذه فروض العيان يعبد الله بها فكيف يعبد الله تعالى وهو لا يعلم هذا العلم ويؤخره ما يجوز تأخيره مثال هذا وهذا فيه دليل حديث النبي عليه الصلاة والسلام عند السنن بن ماجه وغيره حديث أبنس أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم حديث على كل مسلم مسلمة مسلمة ضعيف على كل مسلم والمسلم إذا ذكر دخلت المسلمة هنا يقول فرض عين أي فرض عين على كل مسلم إيش هو هذا العلم يقول فرض الذي لا بد من فعله الإنسان إذا أسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله ماذا يجب عليه يجب عليه إذا دخل وقت صلاة أن يبدأ يصلي طيب كيف يصلي لابد يكون عارف الوضوء وعارف يصلي الفاتحة وعارف الوضوء في الصلاة إذن هنا إذا دخل الإسلام أول شيء نقول له تعلم الفاتحة فيبدأ يتعلم الفاتحة أو تعلم الوضوء الآن بعد ساعة يدخل وقت صلاة لازم تصلي أنت لا مكلف فيبدأ يتعلم هذه ما استطاع دخل وقت عليه يدخل مع المسلمين بأي كيفية ويصلي معه هذا معذور هو ثم يشرع في تعلم الصلاة لأن أهم ركن بعد الشهادتين وهكذا تعلم الآن الصلاة طيب الآن ينبغي تعلم أمور أخرى لهذه أهم شيء في دينك أنت عرفت الصلاة الآن تعلم أحكام الصلاة الباقية تعلم كيف كان يصلي الرسول صلوا كما رأيتم يصلي فيتعلم جميع الأحكام ما تعلق بالصلاة لأن هذا ركن بعد الشهادتين طيب بعد ذلك دخل يعني وقت زكاة وعنده مال يقول تعلم كيف تزكي أنت عندك مال إذا ما عندك مال اترك الزكاة جاء رمضان تعلم كيف تصوم الآن أنت جاء رمضان وهكذا كل ما يعني حصل له أمر فرض في الإسلام أن يعمله يبدأ أن يتعلمه ما تأتي المرأة تتعلم يعني أحكام الحيض وهي دخلت الإسلام وهي تتعلم الصلاة لا تبدأ بأحكام الحيض تبدأ بأحكام الصلاة وهكذا لا تتعلم أمور السلام واللي ما قلنا هذا إلا بعد أحكام الحيض لأنك تتزوج إذا أرادت تتزوج تعلم تتعلم هذه الأحكام إذا أرادت زوجها أن يطلقها أو تريد أن تخالعه أو تفسخ تدرس أحكام الطلاق أحكام الفسخ أحكام الخلع حتى تقبل على هذه العبادة وهي تعلم فهناك أولويات لا بد منها طيب الآن مسلم تعلم هذه اللي فروض العيان عليه تعلم هذه وهذه وهذه اللي فروض عيان كل ما عنا له أراد أن يحج يبدأ يتعلم أعمال الحج يبدأ في عمره يبدأ يتعلم أعمال لو قال أنا أتعلم كيف تغسل الأموات ويكفن يقول هذا لا بس لكن هذا إيش ليس فرض عين هذا فرض كفاية في كل مدينة لو حصل واحد مغسل ومكفن يسقط على الباقين يعني الفرض فرض الكفاية ليس فرض عين. إذن ينبغي المسلم أن يهتم بفروض الأعيان، إذا انتهت يبدأ بفروض الكفاية مما يلزم الإسلام بيسقط عنهم فرض الكفاية، فهذا يبدأ بالأهم فالأهم. نعم.
Je reprends la question. C'est une femme que Allah la préserve et facilite dans ce qu'il aime agréer, qui questionne sur les priorités dans la pour la femme dans son foyer par rapport à les priorités, quelle priorité à donner entre la science, le ménage, l'éducation de l'enfant et ainsi de suite. Le cheikh il explique que déjà il y a des priorités qui sont obligatoires et c'est unisexe, ce n'est pas distinctif par rapport aux gens, ça concerne l'homme et la femme. La quête de la science, l'apprentissage des bases obligatoires à apprendre de la religion concerne l'homme et la femme. Et il dit que la science se divise en deux. Il y a ce qu'on appelle le fard ayn ou le fard kifa'i. Fard ayn, c'est l'obligation individuelle. C'est-à-dire que tout musulman et tout musulman est obligé d'apprendre cette partie de science, cette partie de la religion qui lui est obligatoire afin de pouvoir pratiquer sa religion et adorer Allah comme il se doit. Ça, c'est ce qui est obligatoire à tout à chacun. Et après, il y a la deuxième catégorie, c'est une science qui est surérogatoire, c'est ce qu'on appelle le fard kifa'i, l'obligation collective. C'est-à-dire qu'il est obligatoire à une partie de la communauté d'apprendre cette science-là. Si personne de la communauté ne l'apprend, la communauté tout entière est dans un péché. Mais si une partie de la communauté s'en acquitte et apprend cette science qui est obligatoire, alors l'obligation est levée sur l'ensemble de la communauté. Et donc, le cheikh Hafidhahullah Ta'ala, il dit, donc l'homme et la femme, le musulman et la musulmane, ont besoin de la science qui leur est nécessaire afin d'adorer Allah Azzawajal avec. Il rapporte le hadith qui est rapporté par Anas ibn Malik, qui est rapporté dans Sunan ibn Majah, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Talib al-ilm faridatun ala kulli muslim. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la quête de la science est une obligation sur tout musulman. Et bien sûr, ce qui est voulu dans ce hadith, c'est la première catégorie, l'obligation individuelle, ce qui est dans les bases de la religion pour adorer Allah Azzawajal. Et il dit, il existe une riwaya du hadith qui dit, ala kulli muslimin wa muslima, c'est-à-dire à tout musulman, à toute musulmane, mais la ziyada avec muslima, elle est faible. Et la formulation avec muslim, elle est générale, qui englobe les hommes et les femmes. Car comme ala kulli muslim, c'est les hommes et les femmes qui sont compris par ce propos prophétique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit maintenant, mais alors quelle est la science? Quand on parle de la science qui est obligatoire à l'individu afin d'adorer Allah Azzawajal sur une clairvoyance, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Il dit dans l'exemple du kafir qui rentre dans l'islam, le nouveau converti. Il vient de dire « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad al-Rasulullah » sallallahu alayhi wa sallam. Il vient d'entrer dans l'islam. Qu'est-ce qu'on doit lui apprendre? La première chose qu'on va lui apprendre déjà, c'est la prière, le wudu, le fatiha. C'est-à-dire que la personne, dès la première chose qu'on va lui apprendre, le fatiha. On lui apprend à prononcer Al-Fatiha. Ensuite, on lui apprend Al-Wudu. Après, on va voir selon le temps qu'il y a entre le fait qu'il vient de se convertir et combien de temps on a avant la Salah. Selon cela, on va donner un ordre particulier selon le temps qu'on dispose afin de lui enseigner. Donc, on va lui apprendre ce qui lui permet d'accomplir la prière. Parce que juste après la Shahada, dans les piliers d'Islam, le deuxième rukn de l'Islam, c'est As-Salah. Donc, afin de pouvoir accomplir la Salah correctement, il doit apprendre Al-Tahara, la purification, parce que ça fait partie des conditions de la Salah. Shurut al-Salah. De ce fait, on lui apprend le wudu, on lui apprend à se purifier et il prie avec Al-Fatiha, etc. Et si la prière elle est proche, les gens vont prier et il n'a pas encore su ça, il rentre, il prie avec les musulmans et il fait comme font les musulmans. Et après, dès que la personne elle peut, il s'empresse d'apprendre le reste de ce qui lui est indispensable d'apprendre en matière de religion. Et pour le reste, il faut après qu'il apprenne à compléter sa science. Ses manques de connaissances, il doit réagir vis-à-vis de cela afin d'apprendre ce qu'il lui est nécessaire d'apprendre vis-à-vis de la salah. Car il est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a dit « Sallu kama ra'aytumuni usalli » Il y a des prières comme vous m'avez vu prier. C'est-à-dire qu'on doit prier tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié. En se basant sur cela, on se doit donc d'apprendre la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de prier tel qu'il a prié sallallahu alayhi wa sallam. Et dit, et après, et ainsi de suite pour les autres piliers de l'islam. La zaka, mafalan, le fait de verser l'aumône qui est obligatoire sur les biens, les différents types de biens que tu possèdes. Si la personne est une personne qui s'est convertie et qui est riche, dans ce cas-là, il est obligatoire sur elle d'apprendre les règles liées à la zaka, afin qu'il sache combien elle doit payer, de où il doit prendre, afin de s'acquitter de cela et verser la zaka. Et s'il est pauvre et qu'il ne possède rien, alors il n'a pas à apprendre cette science-là. Et pareil avec Ramadan, si le Ramadan rentre dans son temps, alors il se doit de jeûner, il doit savoir comment on jeûne et les ahkam et les règles religieuses liées à l'accomplissement du mois de Ramadan et du jeûne. Et donc il apprend ce qui lui est indispensable. Concernant la femme, elle se doit d'apprendre sa religion, d'apprendre les bases de sa religion, parmi elles, la salah. Et elle doit apprendre la salah avant des règles liées à la tahara del haïd, par rapport al haïd, les détails liés au menstru, liés par rapport à ce qui est des règles, les règles des femmes, les écoulements de sang liés aux femmes. Et donc il dit, elle apprend ahkam al-salah avant ahkam al-haïd.
Et elle apprend Ahkam al-Hayd avant Ahkam al-Salam. Le fait de passer le salam et ce qu'on a appris durant cette dawra, qu'Allah Azza wa Jalla nous facilite le fait de l'appliquer dans nos vies. Yani, ce qu'on a appris, ça, la femme, elle ne va pas le faire devancer sur les règles de la purification liées au menstru. Elle fait précéder et elle donne de l'importance. Il y a le fait que la personne doit d'abord avoir des priorités dans ce qu'il apprend. C'est pas elle apprend tout n'importe comment sans un ordre. Il doit apprendre afin d'œuvrer avec une science. Il lui apprend ce qui lui incombe. Par exemple, ce qui est lié au lavage du mort, le lavage du défunt. Ceci est une obligation collective. Ce n'est pas tout à chacun qui doit apprendre à faire ça et le faire. Ceci est une obligation collective. Si une partie de la communauté s'en acquitte, l'obligation est levée sur l'ensemble de la communauté. De ce fait-là, ce n'est pas une priorité pour la personne qui veut d'abord apprendre la science qui lui est obligatoire en tant qu'individu.
Personne n'aurait les cons. Ça, il est à court. يعني هل يجوز للمرأة في حال الحيض أن تجلس في المسجد لأجل حضور الدرس؟
قال بعض أهل العلم بذلك أن المرأة إذا حاضت لها أن تجلس في المسجد من باب الضرورة تلقي العلم، وقال آخرون بعدم الجواز، ونقول الأحوط عدم المجيء المسجد أحوط. المرأة لا تأتي المسجد وهي حائض، لأن قد ينزل منها الحيض في المسجد وغير ذلك، فمن باب التنزه والحفاظ. والحمد لله الآن يعني هناك وسائل للتعليم كثيرة، يعني الدرس هذا الذي يقام هنا هذا يبث عندكم، يبث في كثير مواضع، يعني في المملكة، في تونس، عندنا إذاعات، فتستطيع تسمع الدروس هذه وهي في بيتها، ويمكن بأريحية أكثر منها، فلا داعي لمجيء المسجد. هذا الذي ترجع عندنا والله اعلم.
سين كيشون une sœur qu'elle a la présence de faire ce qu'il est malgré. Elle dit assalamu alaykoum wa rahmatullah wa barakatuh. Est-il permis pour une femme qui a ses menstrues de venir s'asseoir à la mosquée pour assister à des assises? Le cheikh Hafidhahullah dit que les gens de science ils ont divergences d'opinions dans cela. La première, c'est que en cas de nécessité, certains éléments ont émis la fatwa que pour acquérir la science, il est permis en cas de nécessité à la femme en état de menstrues de venir malgré tout à la mosquée. Certains ulémas ont fait la fatwa de l'opposé. Ils ont dit que ceci est interdit pour elle. Et le shir, sa position, c'est qu'il dit que l'ahwat, il y a la position de sécurité dans cette affaire-là, c'est qu'elle ne vienne pas à la mosquée, car ceci pourrait découler de certains mots. Parmi ces mots-là, possible qu'il puisse en découler du fait qu'elle vienne à la mosquée en état de menstrue, c'est que s'écoule d'elle du sang des menstrues qui pourrait alors causer un tort à la mosquée en elle-même. Il dit, de plus, de nos jours, par la grâce d'Allah Azza wa Jalla, nous avons divers moyens qui nous permettent d'obtenir la science en live, c'est-à-dire en direct, sans même qu'elle quitte sa maison. Elle peut très bien écouter à sa maison le cours en direct, comme le cheikh l'a expliqué, le cours par exemple de cette dawra, Yanni est retransmis en direct sur des radios, dans de différents pays du monde, les gens sont en train d'écouter ce cours en direct. Donc la femme peut tout à fait, en état de menstrue, rester chez elle, et pour pouvoir écouter tranquillement son cours, et prendre la science de façon directe, sans avoir à s'asseoir dans la mosquée. Et donc il n'y a pas vraiment de réelle nécessité, vu qu'on a ces moyens technologiques par la grâce d'Allah Azza wa Jalla, il n'y a pas une réelle nécessité pour elle de venir à la mosquée, vu la situation dans laquelle elle se trouve par rapport à ses menstrues. Non. Je précise par rapport à la personne qui a posé la question, vu qu'il n'y a pas assez de détails, moi je vais essayer de formuler la question de telle manière qu'on puisse tirer tous des fawaïd de ça. Que la personne nous dit dans la question, est-il suffisant de dire « Salam alaikum, comment ça va ?» à ses parents pour prétendre conserver les liens du sang. Et quand les parents pleurent, ils veulent plus. Quand de plus, les parents sont également privés de leurs petits-enfants, ce qui les rend encore plus tristes. La partie sur les petits-enfants, la personne ne dit pas si elle vit dans le même pays, et qu'il les empêche de les voir, ou s'il vit dans un autre pays, donc du coup c'est difficile de faire que ses parents voient leurs petits-enfants. Donc comme c'est la question n'est pas assez détaillée, je vais essayer de formuler la question de manière à ce que les gens puissent en profiter tous. Oui, il est là. Cheikhana. Assalamu alaykoum, yani. Le juz awal min as-su'al. Yani, hal qawl assalamu alaykoum kayfa haluk lil abawayn yakfi fi tahqiq yani silat ar-rahim. وقتنا كلهم يعني ممكن بالاتصال أو أمامهم يعني السلام عليكم كيف حالك هل يكفي؟
لا شك أن هذا هو بداية تحية الإسلام أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لكن الأبوان لهم خصوصية فلا بد أن يسأل حالهم، كيف حالك يا والدي، كيف حالك أمك، هل هناك حاجة، هل تحتاجين في شيء، كيف الأمور، يعني نطف ربما يكون له حاجة والحاجة أمك، لكن السلام عليكم السلام يلا مع السلامة هذا ما يصير، هذا ممكن بين الناس، لكن هنا علاقة أبوية وأنت مأمور أن تبر والديك تتقرب إليهما منزلة عظيمة هذه ولك بها أجور عظيمة عند الله تعالى فلا تدع المسألة كسلامة أي أحد لا نعم
يعني نستوي جزء من السؤال يعني عالما أن أنهما يعني عنده البكاء بسبب ذلك يعني تريدان يعني الزيادة في المعاملة
من عند البكاء
يعني الأبوين بسبب ذلك يعني الشخص يكتفي بسلام عليكم كيف حالك والأبوين يبقون بسبب ذلك يريدون الزيادة منه
إذا فعلي استدعي أكثر إذا كان عرفت أن أمك أو والدك يريد مزيد من الكلام ويحب هذا الإطالة أطل ليش تختصر أصلا أنا أوجد الرغبة فلا شيء ما قد تكون بعيد لا يكفي أن تقول السلام عليكم وعليكم السلام لا بد من يعني مزيد من المودة والصلة والسؤال عن الحال وإجراء بعض الكلام مما يعني يكون فيه يعني ارتياح لوالدك عن حالك وعن حاله وربما يبث عما عنده من أمور هموم أو غير ذلك ومطالب لا بد هذا الكلام ماشي داعي العجلة وبعدين الآن وسائل اتصال مجانية تكلم ساعة ساعتين يعني ربما تكلم مع حبيبتك زوجتك ساعة طويلة ومع أمك بس كلمتين يلا لا ما يصير الله المستعان
السلام عليكم طب la question que j'ai formulée c'est par rapport est-ce que la parole assalamu alaikum comment ça va يعني à ses parents est-ce que ceci suffit à maintenir les liens de parenté le cher il a dit que ça c'est le début dans l'interaction dans le fait de maintenir les liens de parenté dire assalamu alaikum comment tu vas ça c'est le début c'est quand tu inities le fait de maintenir les liens de parenté mais il faut que tu demandes plus que ça que tu saches tu demandes à propos de leur situation s'ils vont bien afin de faire preuve de bienfaisance envers eux car il t'a été rendu obligatoire dans la charia de faire preuve de bienfaisance envers eux et de bonté envers eux de bon comportement envers eux et tu es récompensé pour cela tu te rapproches d'eux en demandant comment ils vont etc et si tu ils ont peut-être des besoins ils ont peut-être besoin de t'expliquer leur situation et donc tu écoutes plus que ça ça suffit pas que tu te contentes de dire salam alaikum comment ça va ça c'est le début ce n'est que le début du fait de maintenir les liens parentés ils ont besoin de beaucoup plus que ça et j'ai ajouté une partie que j'avais oublié de mentionner yani, sachant que les parents pleurent ils veulent plus ils disent s'ils veulent plus tu leur donnes plus tu te dois de faire ça c'est, tu as des obligations envers eux et ils ont un statut qui font que tu dois leur donner du temps il dit il y a des gens des fois il y a certaines personnes de ton entourage tu vas leur parler pendant peut-être deux heures etc et ça te dérange pas mais eux quelques paroles et ça y est tu t'en vas non ceci n'est pas approprié quant à la partie sur les petits enfants je peux pas me permettre de la transmettre au cher parce que je connais pas assez de la situation parce que là les petits enfants ils sont dans la même ville que leurs grands parents ils les empêchent de les visiter ou est-ce qu'ils sont dans une autre ville ils ont fait la région là je ne sais pas donc je peux pas me permettre de poser la question au cher parce que j'ai pas assez d'éléments pour que le cher y mette une photo dessus شيخنا أحسن الله إليكم وبارك فيكم يعني سائل يسأل أريد أن أفتح محل لأبيع أشياء لكن ما عندي الفرصة لأجلس مع العلماء لأجل أن أطلب العلم ما هي الكتب التي تبين أحكام البيع تنصحوني بها
الإنسان إذا أراد أن يبيع ويشتري لابد أن يتعلم أحكام البيع ولا سيما الأحكام الأساسية وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين كان يقول لا يبيع في سوقنا من لم يتفقه في أحكام البيوع لأن أحكام البيوع مهمة تأتي وتبيع وتشتري وتجري في ربا وفي غرر وفي محرمات يعني هذه كلها ذنوب ما تقول أنا معذور لا لست معذور ونحن قلنا أن هناك علوم فرض عين الآن إذا جيت لتشتغل في التجارة فرض عين عليك أن تتعلم أمور البيوع وأحكام البيوع ويكفيك أن تقرأ ملخص فقهي لأحد العلماء وشرحه وتعرف تضبطه يكفيك مثلا منهج السالكين كتاب جيد شيخ السعدي رحمه الله تعالى في باب في كتاب البيوع معلوم أول كتاب البيوع في أحكام وشروط البيوع لو ضبطت هذه أتقنتها هذه مدخل تستطيع بعد ذلك تبيع وتشتري وإذا أشكل عليك شيء تسأل العلم أو تتوسع في الكتاب تجد أحكام كثيرة إن شاء الله والحمد لله الآن العلم مبتدل العاد العلم موجود في أداء العباد وفي الأجهزة هذه التليفونات يعني أي شيء يشكل عليك ممكن تدخل وتسأل المشايخ يعني مسألة فلانية كذا في البيوع تجد جواب يأتيك من أكبر العلماء يأتيك من الشيخ بن باز والشيخ فوزان والشيخ العثيمين بكل سهولة فأنت تبدأ بهذه البداية كما ذكرنا من كتاب مثلا المنهي السالكين، ثم إذا عنا عليك شيء وأشكال ترجع إلى هذه الأجهزة وتبحث وتتصل بالعلماء. المسألة يسيرة الآن.
السلام عليكم. La question du frère, salam alaikum, kalab zafan al récit. Je souhaite ouvrir un commerce et je n'ai pas la possibilité de me déplacer auprès des savants pour étudier. Quel livre me conseillez-vous afin de pouvoir m'éduquer sur les règles du commerce? Le cheikh explique que le commerce, c'est quelque chose qui doit être appris. C'est-à-dire que toute personne qui souhaite entreprendre des interactions commerciales dans lesquelles il interagit, il vend, il achète, etc., qui est dans ce qu'on appelle elbeir, il lui devient alors dans ce cas-là obligatoire d'apprendre les règles du commerce. C'est-à-dire qu'il avait expliqué qu'il y a des choses qui sont fardain, obligations individuelles. La personne qui veut se livrer à des interactions commerciales, c'est-à-dire commercer, avant de commercer, il lui est obligatoire d'apprendre les règles du commerce. Pourquoi ? Parce qu'il peut être amené à tomber dans des interactions commerciales qui sont illicites. Riba, l'usure, car l'usure se manifeste de différentes formes et de différentes manières, de telle sorte que la personne elle peut générer alors de l'argent qui est illicite et tomber dans des transactions commerciales qui sont illicites. Et il est tombé dans le péché. Et il n'est pas excusé pour ça. Il n'est pas excusé pour ça, parce qu'il lui était obligatoire, avant de commencer son interaction commerciale, d'apprendre les règles du commerce de façon précédente. Et si donc il entreprend une démarche commerciale sans avoir appris, et qu'il tombe dans une forme de riba, dans une forme de transaction qui est illicite, il n'a pas d'excuse, parce qu'il n'a pas appris précédemment. Et il explique que Omar ibn Khattab radiallahu anhu disait, ne vend pas dans nos marchés, excepté celui qui a appris les règles du commerce. Naam. Il dit, dans ce cas-là, la personne, en matière de livre, s'il ne peut pas étudier que les éléments, il peut alors s'orienter vers un livre qui est un résumé lié au fiqh, qui lui explique ce sujet-là, avec des explications des éléments. Et dit, parmi eux, le shir donne une orientation vers le livre Al-Manhaj al-Saliki, qui est un des livres de shir Al-Allama Abdurrahman al-Nasser al-Sirdi, Rahimahullah, Rahmatan al-Nasira, qui est un bon livre en guise d'introduction dans le sujet du fiqh. Et dedans, il y a un chapitre qui s'appelle Kitab al-Buyur, le livre des transactions, le livre du commerce, qui aborde les différents types de commerce. Dedans, il y a ce qu'on appelle « shurut al-bay'a », c'est-à-dire les conditions de validité de la transaction commerciale. Et dedans, il y a une explication qui servira d'introduction bonne et bénéfique pour la personne qui veut débuter dans ce sujet-là. Et il dit, et en cas de problème, c'est-à-dire que tu as une incompréhension dans un sujet particulier lié au bay'a, tu peux alors retourner en utilisant les appareils électroniques qu'il y a de nos jours, avec Internet, etc., où tu peux consulter les fatawas des ulama du passé, comme sur, et ceux qui sont vivants, comme sur Saleh al-Fawzan, parmi les kibar ulama, Cheikh Mohamed ibn Saleh al-Athaymin, ou Cheikh Abdelaziz ben Baz, le mufti précédent d'Arabie Saoudite, qu'Allah lui fasse miséricorde, et autres que ceux parmi les ulama, afin de trouver un éclaircissement. Ou tu peux aussi revenir vers les ulama en les contactant directement, en les questionnant ce sur quoi tu rencontres un problème en matière de compréhension lié au commerce. Cheikh, assalamu alaikum. سائل يسأل السلام عليكم حفظكم الله يعني ذكرتم أن من السنة أن قبل النوم يعني نتوضأ ثم نصلي ركعتين ولكن كيف آتي بهذه السنة إذا أتيت بالوتر قبل ذلك يعني يعني ذكرتم أن من السنة التوضأ ثم يعني صلاة ركعتين قبل النوم وإذا أتيت بالوتر ماذا أفعل؟
يعني عندما أراد تنام
نعم يعني أتى بالوتر ثم يريد أن ينام ويريد أن يجدد هذه السنة أيه. النافعة يعني الوضوء ركعتين ولكن أيه. أتى بالوتر قبل ذلك ماذا يفعل؟
هذه العلماء يذكرون هذه المسألة يقولوا هذه من ذوات الأسباب يعني الإنسان إذا توضأ ويعني يسن له أن يصلي ركعتين سنة الوضوء فإذا يعني حب أن يصلي صلىها وإلا يتركها إذا أشكل عليه أنه يعني قد أوتر فإنه يعني يتركها ولو فعلها ما عليه شيء لأن جاء من كلام أهل العلم أن الإنسان لو أن يوتر أول الليل فإذا أوتر أول الليل ثم قام يريد يتهجد بالليل أدرك بنشاط قال يصلي ركعتين 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 المهم أنه لا يوتر ثاني مرة هنا المهم لا يجمع يعني وترين في ليلة واحدة وإنما يصلي يتنفل ركعتين وركعتين وركعتين ثم يجعل آخر صلاة ركعتين ولا يكتر فهذه تعاد من هذا فلا بأس في ذلك إن شاء الله
السلام عليكم Donc le cher, la question que je lui ai posée, j'ai légèrement modifié la question du frère, après Allah, et j'ai posé la question au cher, yani par rapport à la sunna du wudu, le fait de faire le wudu et de faire deux rak'a avant de dormir. Et il dit, mais si par exemple j'ai déjà fait le witr, comment je procède?
Sachant que normalement, on doit clôturer sa nuit par le witr. Le shir, il a dit que les ulémas ont abordé ça, qu'il y en a, par exemple, il y a des choses qu'on peut faire liées au wudu. Par exemple, si on fait le wudu, on peut faire, par exemple, draqa de wudu, liées au wudu, et où on peut les délaisser. Et il dit, si la personne a fait déjà le witr, elle peut prier des draqa ou elle les délaisse. Il dit, donne l'exemple, par exemple, d'une personne qui, il a été rapporté que tu peux faire le witr en début de nuit. Ça a été rapporté dans la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'on peut prier en début de nuit. Puis, si la personne, elle fait le witr, il dort. Puis, il se lève durant la nuit, et il est dans une situation où il se sent en forme, etc. Il veut faire le tahajjud, dernier, qiyam al-layl. Il veut faire la prière nocturne. Il peut alors faire qiyam al-layl. Cependant, il ne doit pas faire un deuxième witr. C'est ça, en fait, l'essentiel. En fait, il n'est pas interdit après le witr de faire de raka par la suite. Ce qu'il ne faut pas, c'est de faire deux witr dans la nuit. Naam. Cheikhana. Assalamu alaikum. Shakhsan, yani. ردد الأذكار يعني أذكار النوم ثم نام ثم استيقظ ثم قام من الليل يعني أتى بقيام الليل ثم يريد أن يرجع إلى فراشه أن ينام من جديد هل يردد يعني أذكار النوم مرة ثانية؟
لا ما يلزم تذكر في أول ليل هو قام العارض قضى حاجته يرجع ينام ما يلزم
جزاكم الله خير. La personne te demande si une personne a fait les afkar liés au sommeil, les afkar légiférés par rapport à ce qu'on fait juste avant de s'endormir, et qu'après la personne dort, puis par la suite la personne se réveille et elle prie la nuit, elle fait la prière nocturne mais elle veut retourner dormir. Est-ce que cette personne doit refaire les afkar liés au sommeil? Le shir dit non. Il dit de la même manière que la personne qui se lève durant la nuit, il a fait les afkar liés au sommeil, il a dormi, il se réveille pour aller faire ses besoins, akramakumullah. Et il revient à son lit, il n'a pas à refaire les askar. جزء الثاني من السؤال وكذلك يعني من يصلي الفجر هل مثلا نام ردد أذكار النوم نام استيقظ صلى صلاة الفجر الواجبة ثم رجع يريد أن يرجع إلى فراشه هل يأتي بأذكار النوم كذلك؟
أذكار النوم وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقة لم يقيدها بالليل لكن غالب الناس ينامون بالليل فالظاهر في الأحاديث أنه كلما أوى إلى فراشه أن يأتي بالذكر كلما سواء بالليل أو بالنهار وبعض النهار بالليل ما ينام بعض الناس ما ينام بالليل يكون عنده عمل يعني حراسة وعمل بالليل فيكون نومه بالنهار إذن هنا مطلق إذا أردت أن تنام بالليل أو بالنهار أو أتي إلى فراشك أول مرة تأتي بالذكر سواء كان بالليل أو نهار
Le cheikh Hafizahullah, je lui ai posé la deuxième partie de la question du questionnaire, qu'elle a la récompense en mur pour sa question, par rapport de même manière, concernant la salat al-fajr, c'est-à-dire, par exemple, quelqu'un, il a fait l'adhkar al-nawm, puis il a dormi, puis il se lève, puis il part, il va salat al-fajr, puis il revient plus tard et il veut de nouveau dormir. Est-ce qu'il refait l'adhkar al-nawm? Le cheikh, il dit déjà, l'adhkar al-nawm, c'est pas limité à la nuit, c'est-à-dire, c'est pas juste parce que quand tu vas dormir la nuit, tu fais l'adhkar al-nawm et tu ne le fais pas la journée. Il dit, c'est juste que la généralité des gens dorment la majorité du temps, leur sommeil a lieu de nuit, donc c'est pour ça qu'en général, c'est mentionné des textes liés à cela. Mais il dit, si la personne elle dort de jour et qu'elle compte dormir, elle fait l'adhkar de nom également aussi. C'est pas, en fait, c'est le qayd, la cause de l'adhkar, c'est le sommeil, c'est pas le moment où ce sommeil a lieu. Sa'ilun yas'al, yani, كيف نصلح القلب؟ نعم صلاحة القلب حتى يعني القلب يكون يعني سالم وكيف نذوق يعني حلاوة الإيمان
حلاوة الإيمان رسول عليه الصلاة والسلام يقول إن لفي الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ما هي المضغة قال عليه الصلاة والسلام القلب وذكر هذه يعني الكلمات في آخر حديث لما تكلم عن الحلال والحرام قال الحلال بين والحرام بين وبينهم المتشابهات فتكلم عن الحلال والحرام وخوف وحذر ثم في النهاية أورد هذه العبارات وإن في الجسد مضغة يعني إذا تريد أن تتقي المحرمات وتحذر منها وعدم الوقوع فيها وتكون ممن يتتبع الحلال ويتنزه ويعمل إلى ذلك فاصلح قلبك صلاح القلب أعظم ما يصلحه القرآن والسنة علما إذا تعلمت القرآن ورأيت القرآن ورأيت السنة تعلمت وما جاء بالأحكام تعبدت الله بها، فإذا تعبدت الله بها حسن قلبك صلح قلبك، لأن القلب هذا مبغى دم ولحم، فيصلحه ماذا؟ يصلحه تهذيب هذا الجسم عقل نفس كل جوارحك. فإذا تلقيت القرآن وفهمت القرآن وتدبرت القرآن وعملت القرآن يرطب قلبك وتخشع جوارحك، فيصير عندك يعني قلب صالح بمعنى فيه صلاح، يقودك إلى الخير ويأمرك بالمعروف ينهاك عن المنكر. إذا أعظم ما يصلح به القلب هو القرآن والسنة والعبادة، وكل داخل ضمن ما ذكر هذا. بارك الله فيكم.
Donc la question, yani comment avoir un cœur sain et comment retrouver la douceur de la foi. Le cheikh Hafidhahullah Ta'ala, il mentionne que le hadith qui est sahih dans Bukhari et Muslim, que le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et certes dans le corps il y a un morceau de chair, s'il est sain, tout le reste du corps est sain, et s'il est corrompu, tout le reste du corps est corrompu, et ce morceau de chair c'est le cœur. Et le cheikh il dit Hafidhahullah que cette partie du hadith c'est la fin d'un hadith dont le début aborde ce qui est lié au halal, que le fait que le halal il est clair et que le haram il est clair, et qu'entre deux il y a des mutashabihat, des affaires équivoques ambiguës dont on ne connaît pas clairement le jugement et dans laquelle la personne pourrait sombrer dans le péché s'il venait à s'aventurer à rentrer dans ces affaires qui sont équivoques au lieu de protéger sa religion en s'en écartant. Et donc il dit le début du hadith est lié à la fin du hadith. Le prophète a dit le halal est clair, il a dit le haram est clair, entre deux il y a des affaires équivoques et justement dans lesquelles tu peux sombrer dans le péché si tu rentres dans ces affaires là. Comment tu fais pour éviter ces affaires qui te feront tomber dans le péché? C'est en réformant ton cœur. Naam. Donc c'est pour ça que le cœur a été mentionné à la fin du hadith. C'est une faïda muhimma que beaucoup de gens devraient noter. Naam. Et dans ce fait le cheikh il dit, et comment on rectifie le cœur? La rectification du cœur vient avec le Coran, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala et la sunna. Premièrement par le fait de les étudier, d'étudier le Coran et d'étudier la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis par le fait d'adorer Allah azza wa jal, par le fait d'appliquer ce que tu as appris du Coran et de la sunna. De par l'étude du Coran et de la sunna, qui est la révélation d'Allah tabaraka wa ta'ala, et la mise en application par l'adoration, en découle alors bi'idhnillahi azza wa jal la rectification du cœur, la préservation du corps et l'intellect de la personne. Il préserve alors son corps et son cœur, et son cœur s'attendrit. Son cœur s'attendrit et il se réforme. Il réforme son cœur par le biais de ces choses-là, bi'idhnillahi azza wa jal. Et il ordonne le bien, il interdit le mal, etc. Donc le cheikh résume que, en bref, c'est-à-dire que la réforme du cœur vient de deux choses. Après le tawfiq d'Allah azza wa jal et sa grâce sur nous, c'est par le Coran wa sunnah et l'adoration, l'ibada.
Allah ta'ala dit dans le kitab al-aziz, « وَإِذَا تُلِيَتْ عَلِيهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا » فزيادة الإيمان في القلب هي التي تصلحه، فسعى إلى زيادة الإيمان في القلب، وزيادة الإيمان ما تكون إلا بالعلم والعمل، وإذا زدت بالعلم والعمل زاد الإيمان صلح القلب. إذن لابد من هذا الأمر العظيم. وإذا تليت عليهم آيات زادتهم وعلى ربهم توكلوا ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا اطمأنت القلوب خشعت خضعت وأدعنت لله تعالى. نعم. السلام عليكم.
Le cheikh rajoute, حفظه الله, il mentionne le verset dans la tradition protestante du sens est, et lorsque ces versets leur sont récités, ceci augmente leur foi. Les croyants, lorsque le Coran leur est récité, ceci augmente leur foi. Donc il dit que le Coran, c'est une preuve que le Coran est une cause de réforme du cœur, par le fait d'augmenter sa foi. Et il dit, et la foi augmente avec deux choses, al-ilm wa al-amal, c'est-à-dire le fait d'apprendre la science et de la mettre en application. Par ces deux choses, bi-idhnillah, azzawajal, le cœur se réforme et sa foi augmente. Et il dit, n'est-ce pas par la mention d'Allah que ça pèse le cœur? Donc le cheikh Hafidhahullah, il explique que donc ceux-ci font partie des causes qui permettent au cœur d'augmenter en foi et de trouver une réforme. Bi'idhnillah azza wa jal. هو صاحب الشرك شرك أكبر يعني وقع في شرك أكبر وهل أسلم عليه؟
السلام هنا إذا كان وسيلة لنصح هذا ودعوته إلى الإسلام وإرشاده أمس ولا لا داعي له. هذا رجل يعني يبغض الله تعالى ولا يلزم لك، لكن إذا كان وسيلة لهذا الأمر أو أنه والدك يعني الوالد الوالدة وإن كان كافر فهنا لابد أن تعمل بإحسان، يعني لابد من المعامل الإحسان والإحسان منها تدخل على السرور تخدمه في الأمور. أما إن كان غير والدك فإذا كان في مصلحة ممكن شرعية لا بس هذا شيء طيب.
الشيخ حفظه الله تعالى la question c'était est-il permis de rendre de سبحان الله أخطأت في الترجمة. يعني هل يجوز رد السلام لشخص من أهلي والذي هو صاحب الشرك أكبر؟ يعني إيه؟ يأتي بسلام إلي وأرد.
حكلكنا في هذا الموضوع.
نعم نعم.
تقولوا عليكم.
نعم.
تقولوا عليكم.
وإذا يعني وجدنا يعني.
إذا كان في يعني في رد سلام يعني أيضا أمل إنك تدعوه وأكذا فترتب مكان جيد بعدك.
Je me suis trompé précédemment, en fait j'avais posé la question est-ce qu'il est permis de passer le salam à une personne de sa famille qui commet un shirk akbar, et je me suis trompé. Est-ce qu'il est permis de rendre le salam à une personne de sa famille qui commet un shirk majeur? Le shirk a dit, on a déjà étudié précédemment cela, ceci est permis à une personne qui est dans le couple, on lui répond. Et après, si jamais dans le bab de la da'wah, on peut être amené à rajouter des paroles par la suite, s'il y a un intérêt, il y a un maslaha dans cela vis-à-vis de cette personne. Et pour la personne qui pose la question, peut-être qu'elle n'a pas assisté au cours précédemment, les cours seront disponibles sûrement sur le site du Cheikh et sur son compte Mixeller. La personne peut très bien y retourner et écouter les explications en détail liées au Ahkam al-Salam, car par la grâce d'Allah Azzawajal, nous avons étudié avec le Cheikh Walid al-Ham les Ahkam dans le fait de répondre au Salam de ceux qui ne sont pas parmi les gens de l'Islam. Sa'ila ou Sa'ila Yaqul Ummi Saharrani Atabi Sahra Aliyya Naam Sahra أو صحره يعني ما نعرف يعني رجل أو امرأة. وقلت لها أن هذا من الشرك الأكبر وأن وعليها أن تتوب من هذا، وهي لا تفعل، لا تتوب
مسلمة هي الأم،
لا تبين يعني أمي فعل السحر علي، وما هو ما هو الأدب معها، وأمرتها بالتوبة وهي يعني لا تقبل.
هذا إذا كان يعني الأم تسحر ابنتها أو ابنها هذا شر عظيم، هذا لا شك، هذا المرأة يعني عندها شر، وينبغي يعني تعليمها وإرشادها ونصحها، ومع ذلك لا بد من الإحسان إليها، لأن أمرنا أن نفسي الكافر الأم الكافرة والأب الكافر، أمرنا أن نفسي إليه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا وبالوالدين إحسانا حتى لو كان كافر. وأسماء رضي الله عنها لما جاءت إلى أمها راغبة وكانت مشركة سألت الرسول قال أحسني إليها، فلا بد أن أحسن إليها، ومن الإحسان النصح والتوجيه بأن ما عليهم خطأ، فينبغي أن تقول لأمها يا أمي هذا غلط وهذا خطر، أنت مسلمة، إن كانت مسلمة هذا يجرش إلى الشرك، وأتيان السحرة هذا من الشرك وفي وعيد، فتبين لها هذا الأمر، ثم تبين ما الفائدة أن تسحرين ابنتك إذا كان في شيء عيب يعني تريد أن تصلحين أصلحي بالكلام بأمور أخرى، تسحرين إيش الفائدة بهذا؟ هل ترضين تضرين؟ تبين لها وتصلحها وترفقها وتظل تحسن إليها وتدعو لها. الدعاء شأن عظيم خاصة للوالدين من الابن من الأولاد ومن الوالدين للأولاد، هذا بدعاء، الإنسان دائما يتعاطى الأسباب، هذه الأسباب. نعم.
La question, يعني ma mère m'a fait du sihr, c'est-à-dire qu'elle a fait, elle a fait usage de sorcellerie à mon encontre. Et quel est le comportement que je dois adopter vis-à-vis d'elle? Je lui ai dit que c'était du shirk akbar, yani de la mécréance majeure, de ce qui expulse la personne qui accomplit cet acte grave de l'islam, la rendant mécréante. Et je lui ai ordonné de se repentir, mais elle ne l'a pas fait. Le Cheikh Hafidhahullah, il commence son introduction en expliquant que le sihr, la sorcellerie, il dit à cette personne qui s'est rendue coupable de cet acte de sorcellerie, c'est-à-dire d'accomplir la sorcellerie sur son enfant, on lui enseigne, et son enfant lui enseigne, il lui explique en faisant preuve de bienfaisance envers elle,
Car il nous a été ordonné dans le Coran, il nous a été ordonné dans la Sharia, que même si nos parents ne sont pas des musulmans, ce sont des kuffars, on se doit de faire preuve de bienfaisance à leur égard. Il ramena le verset dans la parole d'Allah Azzajal, dont la traduction approximative est la suivante. Et ton Seigneur a ordonné que tu ne lui donnes aucun associé et que tu sois bienfaisant envers tes parents. Donc la bienfaisance envers les parents, même non musulmans, est quelque chose qui est obligatoire. Et une des sahabiyas avait sa mère qui était mécréante. Et elle questionna le prophète sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis de l'interaction qu'elle devait avoir avec elle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna à cette femme musulmane d'être bienfaisante envers sa mère qui n'était pas musulmane. De faire preuve de bienfaisance à son égard. Naam. Et il dit, Cheikh Hafidallah, que cet enfant-là, si sa mère elle est musulmane, elle lui explique, elle lui fait la nasiha, musulmane ou non musulmane. Elle lui dit qu'elle lui explique, elle lui fait la nasiha, elle lui donne le bon conseil, elle lui explique le jugement du sihr et la gravité que ceci implique. Et elle fait en sorte de la rectifier avec le conseil et la nasiha, et elle lui fait savoir que si tu as trouvé quelque chose en moi, c'est-à-dire que l'enfant s'adresse à sa mère, en disant, si tu as trouvé quelque chose en moi qui était incorrect, conseille-moi, alerte-moi sur mon défaut afin que je me rectifie, mais ne me fais pas de la sorcellerie afin de rectifier quelque chose que tu trouves chez moi. Et ainsi, le shir, il invite aussi à la personne à faire des doigts. Faire des doigts afin qu'Allah Azzajal accorde sa guidance à sa mère. Car il est important, la place de la doigts des enfants pour les parents et les parents pour les enfants a un grand statut dans la chaléra d'Allah Azzajal par rapport à son mérite et à son grand statut qu'il occupe. يعني عنده أخت وما عندها رغبة قوية في الدين فيما يتعلق بالدين وهي يعني مشغولة بأمور التي تتعلق بالدنيا وإذا تكلمنا معها في أمور التي تتعلق بالدين وبالموت والآخرة والمحشر يعني البحث بعد الموت إلى آخره هي تغضب غضبا وماذا أفعل ولا أعرف منها أنها وقعت في كبائر أو أي شيء ولكن إذا ذكرت أمامها يعني الأمور التي تتعلق بالدين والآخرة إلى آخره والموت هي تغضب يعني بغضب شديد
الإنسان دائما ما يحب أن يواجه بحقيقة يعني أفعاله يعني حتى لو كان قبيحا يعني ما يحب أن تقول له قبيح ولا ينبغي أن تقول له قبيح لكن الإنسان جبلة لا يحب أن أحد يعني يبين له عيوبه وهذا من خطأ والرسول عليه الصلاة والسلام يقول المسلم مرآة لأخيه مرآة لأخيه ومرآة لأخيه معنى إذا رأيت في أخيك خطأ لا تسكت وكما قلت أن الإنسان ما يحب أن يبين له خطأ ولو كان خطأ مثل الشمس كان رجل يأتي إلى امرأة يزني بها أسأل الله السلام والعافية فجاء ذات يوم يفعل ذلك فاحشة فوجدها غضبا زعلانة ليش خير إن شاء الله قالت هؤلاء النسوة يقولون لي إنك زانية هو يقولوا زانية أعوذ بالله منهم يقولوا زانية هاي هو زانية يقولوا لا تبكي معلش منهم هذا الجهلة طيب لما قضى حاجته وخارج صار بينهم زعل قال لي يعني انت ما انت زاني انا قريش البخاري ومسلم بكت واجهها بالحقيقة الآن فالمسلم ينبغي أن يبين لأخيه ما عنده ولا يبالي غضب ما غضب ولو أن هذا الذي ينصح يعلم الخير لا شم رأس هذا الذي ينصح قبله من شدة فرحه أنه يريد ينقذه من النار كبائر الذنوب يعني هذه ما هي مبالي بالآخرة إذا لن تبالي بدين ولن تبالي بصلاة ولن تبالي بطاعة وستقع بعد ذلك في الكبائر المنكرات فهذا اللي يقول لا اتقي الله كيف تعملي كذا وكذا وكذا ما تخافي القمة ما تخافي يوم القيامة ما تصلي ما تفعلي تغضب لا تغضب على أكبر بين لها كل ما غضب تبين لها هذا نصح وأنت ما تفعل هذا اللي محبتك لها ولذلك لا بد الإنسان يتحرى هذه الأمور ولا يبالي بغضب ما غضب هذا شعره أنت عليك واجب إذا سكت وجاريته أنت يعني خائن لأخيك هذا ما صح له من النصح أن تبين له ما وراء بالدليل إذا كان في وهم لا تتقدمه لكن إذا تبين لك أنه عليه كبائر وذنوب أخرى ولا يبالي بالصلاة ولا يبالي بيوم آخر ولا يبالي بدين ودامت على الليلة لا بتكلم ولا تبالي. نعم.
Donc la question, ma sœur ne s'intéresse que très peu à la religion, elle est beaucoup plus préoccupée par la dunya, et dès lors que l'on aborde le thème de la religion, et plus précisément celui de la mort, la résurrection, l'enfer, elle s'énerve au point où elle sort de ses gonds. Que devons-nous faire en sachant que je ne pense pas qu'elle commette de grands péchés? Le Cheikh Hafidhahullah Ta'ala, il explique que l'être humain n'aime pas qu'on lui montre ses défauts, il n'aime pas qu'on lui dise que ce qu'il fait c'est mal. En général, même si sa faute est aussi évidente que le soleil dans le ciel. C'est-à-dire que la personne sait très bien qu'elle fait le mal, mais elle ne veut pas l'entendre venir d'autrui, qu'il lui fasse remarquer ses défauts. Et le Cheikh Hafidhahullah Ta'ala, il explique que la personne, comment elle doit se comporter vis-à-vis de celui qui lui montre ses défauts, c'est le fait que tu devrais lui embrasser la tête, et lui faire preuve de gratitude à son égard, et lui faire preuve de remerciement à son égard. Pourquoi? Parce qu'il te montre tes défauts. Il te montre tes défauts et il t'alerte sur des choses sur lesquelles tu as besoin de te rectifier. Donc tu te dois d'accepter le conseil premièrement, et tu fais preuve de reconnaissance et de gratitude envers celui qui te montre tes défauts. Et il ramena le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que le croyant est un miroir pour son frère. C'est-à-dire qu'il est du devoir du musulman sur son frère, vis-à-vis de son frère, de lui montrer ses défauts. Tel un miroir qui lui reflète son reflet, alors tu lui montres ses défauts et tu l'alertes sur ses défauts. Donc si une personne, elle n'est pas intéressée par le din, elle n'est pas intéressée vis-à-vis de la salah, elle s'en fiche, elle ne donne pas d'importance à cela, elle finira par tomber dans les grands péchés. Et donc fait partie de la manifestation de la loyauté entre les musulmans que l'on se donne le bon conseil avec preuve. Et ceci est obligatoire. Si tu vois de ton frère des défauts et que tu n'alertes pas sur cette chose-là et que tu ne cherches pas à la rectifier, alors tu es tombé dans un péché parce que tu n'as pas fait le nosh, tu n'as pas fait la nasiha et tu es tombé dans ce qu'on appelle al-khiyana, c'est-à-dire tu l'as trahi. Tu l'as trahi parce que tu ne l'as pas conseillé vis-à-vis de ses défauts. Et il dit, tu fais le conseil avec preuve et s'il se met en colère, ça c'est pas ton problème, ça c'est son problème à lui. Toi, tu fais ton devoir de conseil en matière de loyauté vis-à-vis de ton frère et on ne trahit pas les gens en se taisant sur leurs fautes. سؤالا حفظكم الله جزء أول من السؤال ما هو الحكم لشخص عنده من المال ما يكفيه ليعتمر ولكن لا يريد أن يعتمر يريد أن يزيد من المال لأجل أن يحج يعني في السنة القديمة
عليه أن يحافظ المال هذا حتى يحج الحج أولى ركن كان السلام بعض الناس يمكن عمل 20 عمرة وما فكر بالحج هذا خطأ اجمع المال هذا للركن العمر هذه عمرة هذا ما تسقط عنك الحج والحج ركن من أركان الإسلام حج ركن من أركان الإسلام ينبغي المبادرة إليه والذي لا يبادر إليه مع القدرة إذا مات آثم على إثم ولذلك إذا تخلف مالا يحج عنه بهذا من هذا المال وإذا لم يخلف مالك انت برع على واحد كذا ولا على ذنب عظيم فينبغي لا تكثر من العمرة عمرة وأنت لم تحج اجمع هذا المال ثم حج وإذا حجيت أدت العمر بعد ذلك انظر مسألة العمرة نعم.
والجزء الثاني من السؤال حفظكم الله
يقب على هذه متعلق بالأول
يعني هذين السؤالين
لا الجزء الثاني متعلق بالأول
نعم
كان بطيء مرة
يعني الثاني هو يعني وما هو الحكم أن أعتمر لأجل أن يتعود يعني على هذا يعني العمرة تشبه الحج ممكن يعتمر لأجل أن يتعود على الذهاب إلى السعودية ويأتي الأحكام ويعتمر
لا لا.
لاستعداد للحج
لا.
في
هذا أول العمرة شبهها بالحج مسألتين بس أو ثلاث وهي الطواف ركن والسعي بين الصفا والمروة ثم الحلقة والتقصير والأعمال الأخرى الموقفات الحج في أعظم من هذا حج في جوف وقوم عرفة في مبيت مزدلفة في منى في أيام التشريق في أمور كثيرة ما في مجال للتدريب لا أنت تقول أنا بتدرب في هذا عمره بتدرب هذا كلام غير صحيح الأولى بالإنسان أن يبدأ بالحج وإذا بدأت بالحج تريد الحج اجعل معك إجازة أسبوع أو أسبوعين واركب إلى أحد من المشايخ أو من عنده علم ويجلس معه يعلمك وفي بعض البلاد أظن أنها ماليزيا، أن كل من أراد الحج أو العمرة لا يذهب إلا بعد ما يأتي بترخيص من وزارة الحج والأوقاف أنه عنده شهادة. إندونيسيا وماليزيا أظن كمان يأتي بشهادة من وزارة الأوقاف أنه صالح للحج أو صالح للعمرة، ويأتي يدربونه ويعلمونه فيأتي عنده فقه. الآن كثير من الناس يأتون كثير ما يبقى شيء من يعني العمرة وواجباتها وشروطها، ما يعرف شيء ولا الحج، ويتخبط يفعل ده يفعل ده، هذا مو صحيح. والحمد لله الآن العلم يسر، إذا دخل النت يجد يعني كثير وسائل للتعليم. في شريط للشيخ تيميم رحمه الله تعالى اسمه الحج خطوة خطوة، سمعتوه هذا حج خطوة خطوة، هذا ترجم إلى كثير من اللغات. إذا قرأت هذا، إذا سمعت هذا الشريط تعلمت الحج كله، اسمع مرة مرتين خلاص هذا التدريب. أما تقول تدرب ما في تدريب عملي هناك، لكن لازم تؤدي يعني أركان واجبات، هذا يعني عندنا غير صحيح.
جزاكم الله خير. Donc, la, le questionneur, Hafizahullah, il a posé deux questions qui sont liées au même sujet. La première question, c'est quelle est la vie religieuse sur le fait de ne pas faire la Umrah malgré la capacité financière de l'accomplir afin d'économiser pour le Hajj l'année suivante. La deuxième question est quel est le jugement sur le fait de privilégier la Umrah afin de s'initier pour le Hajj l'année suivante. Donc, la première question, quel est le jugement religieux du fait de ne pas faire la Umrah malgré la capacité financière afin d'économiser pour le Hajj. Le Cheikh, il dit... C'est le fait de ne pas faire la Umra pour privilégier le Hajj, c'est ce qui est correct, parce que le Hajj c'est ce qui prévaut. Du fait que le Hajj est un pilier parmi les piliers de l'islam. Il explique qu'il y a des gens, des fois, ils ont peut-être fait 10, 20 Umra, ils ont fait beaucoup de Umra, mais ils n'ont pas fait le Hajj. Alors que le Hajj est un pilier, donc la personne se doit de s'empresser vers son acquittement et son accomplissement. Et celui qui retarde le Hajj alors qu'il a capacité de faire le Hajj et qui meurt, il est dans un péché. Et s'il décède et qu'il reste de ses biens, alors on prend de ses biens et une personne fait le Hajj à sa place, par la suite, après son décès. Et il dit, après pour la deuxième partie de la question, sur le fait de privilégier la Umrah afin de s'initier au Hajj pour l'année suivante, c'est-à-dire en tant qu'exercice, en guise de préparation pour le Hajj qu'il fera l'année suivante, Cheikh il dit, ça c'est pas approprié. Pourquoi? Parce que la Umrah ne va pas vraiment te servir d'exercice, parce que la Umrah il n'y a que deux ou trois choses. Tu vas faire le Tawaf, c'est-à-dire les circonvolutions, le fait de tourner cette fois autour de la Kaaba. Puis après tu vas faire As-Sa'i, c'est le fait d'aller entre Safa et Marwa, tu vas faire 7 allers-retours. Puis après tu te rases les cheveux et ta Umrah elle est finie. Ça n'a rien à voir avec le Hajj. Le Hajj ça comporte ces choses-là, plus le fait de stationner dans Amina pendant plusieurs jours, de passer la nuit à Muzdalifa, le fait de faire la station durant la journée, durant à Arafat. Tout ça ce sont des choses beaucoup plus, il y a beaucoup plus de choses dans le Hajj. Donc en vérité la Umrah elle va pas vraiment te préparer au Hajj. Il dit tout ce que tu peux faire, ce que tu dois faire, c'est que tu étudies le Hajj avant d'aller au Hajj. Tu privilégies le Hajj à la Umrah et avant d'aller au Hajj, tu prends 2 semaines de vacances. C'est-à-dire par rapport au Hajj, tu prends 2 semaines de vacances dans lesquelles tu étudies Ahkam al-Hajj. Tu étudies comment on fait le Hajj correctement. Il dit en Indonésie, le Cheikh Hafizahullah, il dit en Indonésie, il mentionne que les gens, avant de faire le Hajj, de pouvoir faire le Hajj, ils doivent arriver avec une attestation gouvernementale certifiant qu'ils sont aptes à accomplir le Hajj. C'est-à-dire en matière de ahkam liés au Hajj au préalable. Donc c'est-à-dire que ces gens-là, ils ne font pas l'adoration basée sur la science. Parce qu'il y a des gens, des fois, ils arrivent au Hajj, ils arrivent à Mecca, ils ne savent pas quoi faire. Ils font n'importe quoi. Ils font n'importe quoi. Parce qu'ils n'ont pas étudié les ahkam correctement. Et le Cheikh Hafizahullah, il a donné le conseil, il a recommandé une cassette de l'Allama al-Faqih, le Cheikh Mohamed ibn Salih al-Uthaymeen, rahimahullah, qui s'appelle le Hajj pas à pas, dans lequel il dit qu'il y a dedans ce qui te suffit. Il suffit que tu l'écoutes une ou deux fois et ceci te suffit pour apprendre les ahkams élémentaires, yani essentiels, afin d'accomplir ton hajj avec science, bi'idhnillah et azza wa jal. Salamu alaykum. Indi al-kudra al-maliya lil-hijra. C'est-à-dire, on a parlé al-hijra. Fima yata'alakum al-mal, ana musta'id. Alhamdulillah. Lakin, zawjati, هي تقول أنها غير مستعيدة، تريد أن يتأخر، وعندي ابنتان، عندي ابنتين يعني صغيرتين، ولا أريد أن أتأخر، يعني لا أريد أن أتأخر، وبسبب ذلك يعني ماذا أفعل؟
ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعطيك عزيمة وقوة وقوة الرجال. إحنا الله تعالى يقول الرجال، ما قال النساء، الرجال إيش قوامونا. أنت الآن جعلت القوام بالمرأة، فما هي غادة خلاص ما بيد. لا، الرجال قوامونا، قل لها بس خلاص عرفنا الكلام، ويوم استفضل يلا يلا سافر كلا معك اترك من هذا الكلام.
بشيخ حفظه الله تعالى، يعني la question fut السلام عليكم، j'ai la capacité financière de, dans l'accomplissement de la hijra, l'immigration des terres de mes créances vers les terres d'islam. Alhamdulillah, mais ma femme me dit qu'elle n'est pas prête et j'ai deux enfants en bas âge et je ne veux pas tarder. Donc, de ce fait, yani, le frère est questionné sur ça. Qu'est-ce qu'il lui conseille de faire? Le cheikh a fait doa en sa faveur, qu'Allah Azzawajal lui accorde la résolution et la force que les hommes possèdent dans ce genre d'affaires. Et il cita le verset dans la traduction approximative du sens, dans lequel que les hommes ont prédominance sur les femmes, yani, dans le sens où la décision finale dans le couple, selon la législation de l'islam, la décision finale revient au chef de famille qui est le mari. Et Allah Azzawajal n'a pas dit que ceci revenait aux femmes. Ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas en compte le conseil de nos femmes, barakallahu fikoum. Cela dit, la décision finale revient à l'homme. Donc, que l'homme fasse preuve de résolution et d'une certaine forme de fermeté, ils disent que la discussion s'arrête là. Il n'y a pas à prendre en compte cette chose-là. Assalamu alaikum, cher. Ort, wa hiya mutabarrija, hiri mutahajiba, wa zawjuha amaraha bitahajjub, wa hiya taqul. يعني هي ليست مستعدة لذلك.
ما تقول هذا الأول. ها؟
نعم.
قل له هذا الجواب الأول يصلح لك. قل له راجع الجواب الأول.
Le questionneur qu'Allah le préserve lui facilite dans ce qu'il a mis à gré, qu'Allah Azza wa Jalla facilite à son épouse l'obéissance à Allah Azza wa Jalla. C'était salam alaikum cher. On le sait et dit que lorsque son mari lui ordonne de revêtir le hijab, elle lui dit « Je ne suis pas prête. Qu'est-ce que vous conseillez au frère ?» Il dit « Ce que j'ai dit dans la réponse de la question précédente, c'est la même chose que ce que je dis maintenant. En fait, ma réponse précédente, ça suffit pour la deuxième. »
يعني يصير الرجل يعني ضعيف إلى حد المرأة أنها تكون في هذه الحالة، صلى الله العافية.
قانون
فرنسا. لا، تركوا قانون فرنسا. في قانون أعظم من قانون فرنسا. وأعظم من قوانين العالم كلها. تعرفه ما هو؟
لحظة.
في قانون إلهي. أعظم من قوانين الدنيا كلها. هذا أولى أن يتبع. هذا أولى أن يتبع. ودعك من هذه التطلعات هذه والتعلات هذه. قالوا كذا، قالوا أنت ما أمرت يا أخي، أنت ما خلق تعيش تحت قوانين تجبرك على ترك دينك وإرسال حياتك، ما أمرت يا تغاني، أنت مأمور أن تعبد الله تعالى. صحابة هاجروا من مكة إلى بلاد النجاشي وتعبوا وشقوا وصبروا، فرج الله عنهم، ما ماتوا في تلك البلاد، وعادوا وغنهم الله تعالى. فما تجي تقول لي يعني قانون كذا قانون كذا، انت ما قلت تحت القوانين هذه. الله المستعان.
Le cher il a rajouté en ziyada que yani on craint que cet individu là yani en fait pourrait se finir par se faire frapper par sa femme. Allah المستعان. Il dit ce genre de comportement ça peut résulter du fait de l'éloignement de la salah, de l'éloignement vis-à-vis des musulmans et des pays musulmans. Ceci yani affecte ces gens-là jusqu'à ce qu'on arrive à ce genre de situation. Et le cheikh Hafidhahullah il a expliqué que dans notre religion on a des principes divins, des règles divines qui viennent du Seigneur de l'univers qu'on se doit de suivre. Et il a rappelé le fait que les sahaba ils ont obéi à Allah Azza wa Jal, et même si ceci impliquait des choses qui étaient difficiles pour leur propre personne, comme lors de la hijra en Abyssinie, c'est-à-dire en terre éthiopienne, ils ont immigré pour préserver leur religion et ils ont voulu obéir à Allah Azza et adorer Allah Azza. Allah Azza nous a donné une législation sur la manière de vivre notre religion, sans causer de tort à personne.
Walilalhamd, mais on se doit d'obéir, même si des fois on y trouve un peu de difficulté, on cherche la face d'Allah Azza wa Jalla. Yani, as-su'al, salamu alaykum wa rahmatullah. Idha salayna wa ataina bi salati al-istikhara. هل الجواب يأتي في المنام؟
لا هذا ما يدل عليه إلا أن تكون رؤى مبشرات أبس لكن قال أهل العلم أنت تأتي بدعاء الاستخارة ثم دعاء الاستخارة هذا مرحلة من مراحل يعني الاستخارة يعني أنك تصلي وإذا كان يعني تصلي ركعتين وتدعو الله تعالى وتدعو الله أن يعني يوفقك لهذا العمل والاستخارة يكون بين أمرين يعني فيه تردد يعني فإذا استغفرت الله وصليت ودعوت الله تعالى فرأيت قلبك يميل إلى أمر خلاص توكل على الله واشرع فيه لأنك أنت استغفرت الله تعالى فإن في خير تستمر فيه وإن لم يكن في خير تقطع أنت من نفسك هذه فائدة الاستخارة وإذا لم ترى شيء يعني ما مال أمرك إلى شيء استشر أهل الخير وهي المعرفة في الأمر الذي أنت تريد أن تقدم عليه فيوفقك الله تعالى إلى من يشير إليك فإذا أشار إليك بأمر ويعني ملت إليه ورغمته أعلم من هذا خير خيرا وأعمل بعد ذلك المهم أنه من استخار لا يخير أبدا لكن ينبغي النظر فيما يميل إليه قلبه ومع ذلك يعزم ويوفق الله تعالى
ما تعلق بالمبشرات يعني إذا يرى في المنام
يعني بشرات مثلا يعني رأى يعني شيء فيه رمز يعني رموز كده تدل على الميل إلى الذي استخر بين أو استخر بين أمرين يعني ورأى أن هذا يعني يشير إلى ميل هذا الجنب أو إلى هذا الأمر فإن شاء الله هذا لا بس لكن لا ينتظر أنه يأتيه ملك يقول له أنت استخر بين فلان أنت كذا أعمل بهذا أترك هذا لا ما في دليل على هذا هذا دليل
لكن إذا يعني يرى في المنام هذا
يرى يعني أشياء مبشرات من يعني أمور ترمز إلى هذا الخير ترمز إلى الميل هذا خلاص
يعمل به
يعمل بهنا
donc le cheikh حفظه الله la question que je lui posais lorsque l'on accomplit la prière de consultation bon, déjà j'attire l'attention sur le fait que c'est la traduction n'est pas la meilleure des traductions de faire de la prière de consultation parce que al-istikhara ça veut dire talab al-khair la demande de khair demander le khair à Allah azza wa jalla
donc on va dire
eh non il y a des fois que nabahtu yani ala tarjama yani consultation yani chez les sabbat d'aqiq donc on va rester sur le terme salat al-istikhara barakallahu fikum donc le cheikh on lui a posé la question si j'accomplis la salat al-istikhara. Et pour ceux qui ne savent pas, on va présenter de façon brève, peut-être que certains parmi vous ne la connaissent pas. C'est le fait de la sunna d'accomplir deux raka et de faire une dua qui a été légiférée par le prophète sallam lorsqu'on hésite entre deux choses. On hésite entre deux choses et dans lesquelles on fait une dua dans laquelle on demande à Allah Azza de nous aider dans cette affaire. Que si cette affaire, entre les deux dans lesquelles on hésite, s'il y a un khair pour nous, qu'Allah nous le facilite. Et si c'est un mal pour nous, qu'Allah l'écarte de nous. Donc cette dua est légiférée du prophète sallam et c'est pas que dans le zawaj, barakallahu fikum, c'est dans les autres affaires aussi. Naam. Donc le cheikh, on lui demande si j'ai fait la salat istikhara, est-ce que la réponse peut apparaître en rêve? Il dit, le fait qu'on dise que ça apparaît en rêve, il n'y a pas de dalil sur ça. Il n'y a pas de dalil que ça va, la réponse arrive en rêve. Mais il dit, ça peut être un rêve pieux que la personne fait, et après, ça peut le pousser à vouloir yani, poursuivre dans son affaire. Dans ce cas-là, il peut agir en conséquence. Mais c'est pas, il attend comme s'il attendait qu'un ange lui vienne et lui dise, tu as fait istikhara entre deux affaires, et l'affaire que tu l'as fait, c'est ça. Il ne doit pas attendre cette chose-là. Mais si ça arrive, ça peut l'influencer dans ce bab-là. De ce fait, il dit, tu fais ça à Sikhara, tu fais de la rakah, tu fais ça à Sikhara, si ton cœur doute et penche, et après, yani, tu hésites entre des affaires, puis après ton cœur, si ton cœur commence à pencher vers une des deux décisions, et que tu commences à pencher vers elle, alors dans ce cas, tu continues, si c'est un bien pour toi, tu continues, si c'est un mal pour toi, Inch'Allah, tu vas t'arrêter, bi'idhnillah, ya azzawajal. Et si jamais ton cœur est incertain, tu restes dans l'incertitude vis-à-vis de cette chose-là, alors dans ce cas-là, tu peux être amené à consulter les gens dotés de sagesse dans cette affaire-là, afin qu'ils puissent t'orienter vers ce qui pourrait être utile dans cette affaire-là. Donc le plus important, ce que le chéri dit dans cette affaire-là, après avoir fait cette sikhara, c'est tu regardes vers quoi penche ton cœur, et après tu te résous, et tu renforces ta détermination, et tu avances bi'idhnillah dans ton projet.
Il y a كيف يكون الرجل ايش ساخن في العلم ولا ايش مراخيص
من الراسخين
من الراسخين
من سبحان الله
من الراسخين
من الراسخين في العلم
من الراسخين
سؤال جيد
هذا كلام طيب الراسخين في العلم هم يعني من ساروا على درب الانبياء من سار على درب الانبياء وسار على نهج الانبياء نحن عندنا اخر النبوة محمد عليه الصلاه والسلام قران وسنه تبقى تكون من الراسخين في العلم ارسخ في القران والسنه واطلب العلم بالقران والسنه بادله القران والسنه دعك من اراء الناس واراء الرجال فكلما اخذت مساله في العلم ارجع فيها الى ما قال الله قال رسول الله وابحث فيها وتوسع واعمل العلم لا يرسخ الا بالعمل طلب علم وايضا عمل اذا حصل العلم قبل العمل حصل الرسوخ وزادك الله تعالى اما دون هذا لا يمكن يكون راسخين العلم وهو يتخبط بين قال فلان وقال فلان قال فلان لا خذ العلم من علماء من كابر عن كابر من عهد الرسول السلف الصالح من بعدهم العلماء الاجلاء الذين رسخوا في هذا الامر خذ عنهم العلم وكلما اخذ جزئيه من العلم عمل بها اذا اخذ جزئيه من العلم لم تعمل بها اعلم انك لن تكون راسخين لان رسوخ العمل ورايت استكثر نفسك الحجج لا كان رجل في زمن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين فياتي يقول يا أم المؤمنين مسألة الفانية كذا 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 يعني استفتي فتقول له يا ابني هذه مسألة كذا 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 يعني في الدين هذه جزاك الله خير وذهب بعد يومين جاء يا أم المؤمنين المسألة الفلانية كذا 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 يقول نعم هذه كذا وكذا وكذا ذهب بعد ثالث مرة يا أم المؤمنين مسألة فلانية قالت له يا بني أكلما أرشدتك إلى مسألة عملت بها قال لا لا أجمعها قال لا إذن لما تستكثر عنك الحجج لما تستكثر عنك الحجج أنت لا نامت عليك حجج أعمل كلما جاءتك سألت عن مسألة وعرفت واجب فيها والشرع فيها أعمل بها لا تقول لا خليها بعدين كيف بعدين أنت تجمع يعني أفكار ودنيا وكانك لا هذا دين هذا الآن قامت عليك لازم تعمل لو لم تعمل هذا بجهل يمكن تعذر لكن قابل هذا الحجة إذا يعمل لازم فالرسوخ في العلم طلب علم من كتاب وسنة على أيدي العلم مع العمل به نعم
Donc le questionneur, Jazakallah khairan, il demande comment être quelqu'un qui est enraciné dans la science. Le Cheikh Hafidhahullah Ta'ala dit que celui qui souhaite être enraciné dans sa science, qu'il emprunte la voie des prophètes, alayhim salatu wassalam. La personne, elle doit, si tu veux être enraciné dans la science, tu dois être enraciné dans les sources de la science qui sont le Coran et la Sunna. Et il dit donc que tu dois étudier la science en te basant sur les preuves venant et émanant du Coran et de la Sunna. Et que tu ne prennes pas comme preuve les opinions des gens. Et que tu reviennes dans toute affaire dans laquelle tu cherches à obtenir de la science, tu reviennes à qu'Allah, Allah, qu'Allah, Rasoul. Qu'est-ce que Allah Azza wa Jalla a dit? Qu'est-ce que son messager sallallahu alayhi wa sallam a dit? Dans toute affaire, tu cherches à revenir au Coran et à la Sunna, et c'est ainsi qu'on devient enraciné. Et un facteur très important auquel le shir attire l'attention, hafidhahullah, c'est qu'il faut al-ilm et al-amal. C'est-à-dire que la personne qui souhaite être enracinée, il se doit d'avoir appris la science et d'avoir mis en application. La personne qui n'applique pas, ne sera pas enracinée dans sa science. L'enracinement dans la science vient de la science et de l'application. Donc il faut l'ilm, la science bénéfique, ou l'amal, l'application de cette science, et ensuite on découle après l'enracinement, et Allah, Inch'Allah, Ta'ala, s'il le veut, t'augmente dans cela. Et il dit, prends des ulama, prends des gens enracinés parmi ceux qui sont passés, tous ces gens-là qui étaient parmi les ulama et les grands, et les enracinés, tu prends de eux. Et à chaque fois que tu obtiens une portion de la science, tu la mets en application. Car si tu n'œuvres pas sur la science que tu as obtenue, tu ne seras pas enraciné dans ta science. Il donne la qissa d'un homme qui venait de façon fréquente à Aïchata, radiallahu anha, et qui l'a questionné dans des masa'il, dans des sujets, dans des affaires de la religion. Il lui disait, telle affaire dans le din, c'est quoi le jugement? Elle lui disait, oh mon fils, le jugement c'est telle chose, telle chose, telle chose. Elle lui donnait la fatwa. Puis il revenait deux jours plus tard, elle lui dit, oh Aïcha, telle affaire, c'est quoi le jugement? Elle lui disait, oh mon fils, le jugement c'est kada wa kada wa kada. Et il revenait de façon fréquente vers Aïcha, la questionnant sur des affaires multiples et diverses. Et un jour, il revint vers elle à nouveau, après avoir recommencé de manière multiple, Et Aïcha lui demanda, est-ce que tu as appliqué tout ce, que je, ce, tout ce vers quoi je t'ai orienté en matière de sujets religieux? As-tu mis en application tout ce vers quoi je t'ai orienté? Il a dit non. Il a dit, pourquoi tu augmentes les preuves contre toi? C'est-à-dire les preuves contre toi, c'est-à-dire que pourquoi tu augmentes les arguments d'Allah contre toi Yawm al-Qiyama alors que tu n'appliques pas? Donc il dit, Talib al-Ilm, cher, Hafidhahullah, il dit, Talib al-Ilm, c'est le kitab wa sunna et la mise en application.
Oh, soit Jimmy,
Wajhin. في هذا السؤال يعني وجهين شيخ كيف نعرف أننا من أصحاب السنة وأحيانا عندي وساوس وعلما أنني أسمع الصوتيات من أهل العلم الحمد لله ولكن أحيانا عندي تشكك وأحيانا أخاف أنني من المنافقين
هذا في شيء ثاني السؤال
يعني الأول يعني كيف نعرف أنني من أصحاب السنة أهل السنة والسؤال الثاني هذا يعني السائل عنده وساوس يستمع لدروس العلماء ولكن يخاف أحيانا أنه ممكن يحسب نفسه أنه من المنافقين
أولا ينبغي أن نعرف من هم أهل السنة أهل السنة ليسوا حزب أو جماعة معينة الإنسان ينتمي إليهم ويعطون بطاقة أنت من أهل السنة هذا غير صحيح أهل السنة هم من يتعلمون السنة ما يتعلمونها في يوم واحد 100 مسألة 50 مسألة 200 مسألة لا تعلمها قليل قليل إذا علم المسألة أن من السنة عمل بها ثاني يوم مسألة يعمل بها ثالث يوم مسألة يعمل بها تمسك بها بال يعني استمرار على هذا الأمر يصنع من أهل السنة فأنت تعرف أنك من أهل السنة إذا كان أكثرت من تعلم السنة وعملت بها أنت لا من أهل السنة إذا كان تجمع مسائل السنة التي يتصف بها السني ثم لا تعمل بها أنت من أهل السنة ولن تكون من أهل السنة وربما تكون من أهل البدع بعد ذلك لما ترك السنة ابتلي بالبدع فاعلم أنك لن تكون من أهل السنة إلا إذا تعلمت السنن والسنن لا تظن أنها عبارة عن يعني مستحبات لا السنن أيضا من معانيها فرائض السنن مع الطريقة هذا الطريقة المعنى في الدين والفرائض تكون فيها فتعلم الدين تعلم الشرع ادرس عند العلم تعلم كتب العلم تبدأ مثلا عند الشيخ مثلا بنواقض الإسلام 10 نواقض الإسلام إذا تعلمت أول ناقض أول يوم ثاني ناقض ثاني يوم ابدأ عمل بالناقضين هذه شوف هل أنت وقعت في الناقض الأول إن كنت وقعت ابرأ منه انجو منه نبي الثاني تبرأ منه وهكذا خلصت العشر النوابذ ترجع قواعد الأربع تنظر هل قواعد الأربع تعمل بها تحذر من الشرك تحذر من الاستغاثة وهكذا الأصول الثلاثة من خلال تعلمك كسبك العلم تنظر هل تعمل بهذا العلم أو لا تعمل إذن هذه هنا إذا كان بدأت تطلب أن تكون من أهل السنة بهذه الطريقة الشيطان ما يتركك يقول هذا يضيع مني الشيطان يريد كل الناس اللي على وجهه يكونوا معه في النار فأنت إذا بدأت تطرق طريق يعني أهل السنة تكون منهم وربما كنت من أهل البدع من الأول يقول كيف في الثالث فيبدأ يجري كيف الشيطان بالوساوس بالخطرات ما عنده سلطة عليه فيبدأ الخطرات يبتليك بأول الوساوس أكثر من يبتلى الوساوس هم من بدأوا يسيروا على الجادة دائما اللي يبتل الوساوس لاحظه فترى انه كان على شر بدا بالخير فلما وضع قدمه على الخير بدا بيمشي عليه الشيطان وبيفلت منه يقوم يعكر على الخير وفي الغالب يكون يبدا بالصلاه ياتي المساجد توضا يصلي مع الناس فاذا دخل الحمام يجي الساعه واذا خرج الحمام ساعه يصلي الى الساعه الثانيه وساوس ذلك هذا كله من الشيطان اذا كان وقفت على طريق السنه احذر من الشيطان اذا جاء الشيطان قال لك والله ما تقول نعم ساصلي بدون وضوء على احزاب خرج صلي بس مش بدون وضوء اعمل الوضوء اذا قال لك انا باقي هنا اقول له ما عليك باقي هنا ولا هناك اعوذ بالله منك صلي يومين الشيطان ما هذا ما اقدر له اترك الشيطان يجيك من ناحيه الوضوء اول مره يجيك وضوء في الحمام تقول تفتش حتى جاني مره واحد قلت له كيف تعرف انه في قطره نزلت بعد هذه المدة كلها قال لي أنا أستعمل حبوب تخلي البول حقي لونه أخضر ولونه أحمر حتى إذا يشوفه شوف إلى وين جر الشيطان. هذا تنطع. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا توضأ أحدكم إذا قضى حياته واستنجى يرش يأخذ ما يرش كذا. ليش؟ حتى إذا رأى شيء ظن أن الشيطان قال له هذا يقول له لا هذا من يدي أنا رشيتها رش أنت وخرج ترتب ولي مال. هذا يضيعك الشيطان يكرهك في الوضوء يكرهك في الصلاة. إذا نجوت من الوضوء كرهك في الصلاة. حتى بعض الناس يعيش صلاة الظهر في اليوم مرتين ثلاث أربع عشر مرات ويصلي الفجر ويصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم بالليل يمسحها يقول هذا كله باطل يقوم يصلي من جديد بالليل قضاء. مسكين هذا المريض هذا هذا نوع من الجنون. هذا فالوساوس تأتي من الشيطان لمن؟ لأهل الخير. انظر الكفر هؤلاء عند الشياطين ما عندهم شيء ولا مس الجن قليل ما تلاقي واحد جن يعني كافر عنده مس. إيه لا من هو يقولهم خلاص في غبط الشيطان عشان يدخل معهم. لكن المسلمين اللي هذوم فلسوا من الشيطان خاصة يجري وراه. فهذه القاعدة عند أهل العلم.
السلام عليكم. Ma question, cher, comment sait-on que l'on fait partie des gens de la Sunna? J'écoute les... Parfois j'ai des wasawis, pourtant j'écoute les durus des gens de science, alhamdulillah, mais j'ai des doutes, j'ai peur des fois d'être un hypocrite. J'apprends ce que je peux de la Sunna. Donc la réponse au questionnaire, qu'Allah lui facilite, c'était comme sur la Sunna, ainsi qu'un autre. Cher, il commence sa réponse, Allah. Par le fait de dire, mais qui sont les gens de la Sunna? Il dit, les gens de la Sunna, c'est pas une secte qui après il certifie les gens, etc. Toi tu es dans la Sunna, toi tu es pas. Il explique que la personne qui est des gens de la Sunna, c'est la personne qui a les caractéristiques suivantes. C'est-à-dire, tu apprends petit à petit, tu étudies la Sunna. Tu peux pas apprendre toute la Sunna dans son ensemble d'un coup. Il y a beaucoup de sujets dans ce qui est dans la Sunna. Si tu apprends petit à petit, et à chaque fois que la sunna te parvient, tu appliques la sunna. C'est par ça que se distingue la personne qui est les gens de la sunna. Tu étudies la sunna, quand te parvient la sunna, tu appliques la sunna, tu la mets en application. Et celui qui délaisse la sunna sera éprouvé par le fait de tomber dans l'innovation. Celui qui délaisse la sunna sera éprouvé par l'innovation. Et la sunna, quand il parle de la sunna, ça ne veut pas dire forcément le mustahab. Ce qui est visé, ça peut, la sunna peut viser ce qui est wajib de din. Par exemple, les affaires liées à l'i'tiqad, la croyance. Il donne par exemple, il dit que quand tu apprends ce qui fait partie de la sunna du prophète sallam en matière d'i'tiqad, de la croyance, tu appliques cela. Il dit comment? Par exemple, si tu t'assois avec un cheikh, et le cheikh enseigne nawaqid de l'islam, les annulatifs de l'islam, ce qui rend vain, annule l'islam d'une personne et le rend mécréant. Il dit, tu assistes naqid al-awwal. Il t'explique le naqid al-awwal, c'est-à-dire celui qui dit telle chose ou qui fait telle chose est devenu un mécréant. Tu regardes déjà, est-ce que moi je suis déjà tombé dans ça? Est-ce que je suis tombé dans ce naqid? De telle sorte que tu appliques cette science-là. Si tu es tombé dedans, tu t'en reprends et tu te réformes. Mais si tu n'es pas tombé dedans, tu sais comment te protéger de ces choses car tu as identifié le mal. Et le lendemain ou l'autre cours, le naqid numéro 2, le naqid numéro 3, l'annulatif numéro 2, l'annulatif numéro 3, jusqu'à ce que tu, chaque fois que tu apprends une partie de la science, tu la mets en application. Pareil avec Qawad al-Arba'a, les quatre règles, les quatre principes liés au polythéisme, écrit par Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, dans lesquels il explique, première règle liée au polythéisme. Telle règle, telle règle, telle règle. Comment l'appliquer? Est-ce que je suis tombé dedans ou pas? Est-ce que je suis en conformité ou pas? Afin de pouvoir appliquer la science qu'on a. Ensuite, Al-Usul al-Thalatha, les trois principes fondamentaux, qui est un livre qui a été écrit sur les trois questions que les anges, Nakir ou Munkar, Munkar ou Nakir, posent dans la tombe. Qui est ton Seigneur? Qui est ta religion? Quelle est ta religion? Et qui est ton prophète? Ces livres-là, on les apprend, on les étudie, on les applique. C'est comme ça que se distingue l'homme de la sunna. C'est celui qui, lorsqu'il apprend de sa religion ce qu'il lui est obligatoire d'apprendre, il l'applique. Il dit parce que si tu délaisses la sunna, il se peut qu'alors plus tard tu sois amené à devenir, alors par la suite, un innovateur. Car celui qui délaisse la sunna sera éprouvé par la bid'a. Qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve. Et il faut savoir que le shir, il explique que tu vas être amené à être attaqué par des wasawis du diable. Pourquoi? Parce que quand tu t'approches de l'istiqama, c'est-à-dire que tu veux te mettre dans le din, tu veux te mettre à pratiquer ta religion, tu veux te mettre dans la religion de droiture et à pratiquer correctement, Shaitan, il veut pas que tu lui échappes. Donc Shaitan, il devient actif sur toi. Parce que tu es en train d'aller vers la droiture. Tu veux aller vers Allah Azza wa Jalla dans son obéissance. Donc Shaitan, il va faire des efforts sur toi. Et donc, il dit, les gens les plus affectés par les wasawis du diable, c'est ceux qui ont commencé à emprunter le chemin de la droiture. Ce sont les gens les plus affectés. Et il dit en général, les waswas, c'est-à-dire les insufflations diaboliques, c'est-à-dire que le shaitan il te murmure des choses, il te fait penser à des choses, en général, il le fait ça parce qu'il n'a aucune. Pourquoi il te fait ça? Il te fait ça parce qu'il n'a aucune force pour toi, sur toi, il ne peut pas te contraindre. Donc il t'insuffle des choses. Et en général, ceci survient dans quoi? Dans la purification. En premier lieu, dans la salah. C'est-à-dire que la personne allait éprouver dans son wudu. C'est-à-dire qu'il y a des gens, des fois, ils sont amenés à aller dans la salle du wudu, et il reste le wudu, il va rester une demi-heure, une heure ou plus, à essayer de parfaire sa purification parce qu'il a des waswas, il recommence son wudu, etc. Il a dit, tu n'écoutes pas, tu fais ton wudu, tu pars. Et même si Satan, il te dit, tu vas prier sans wudu, t'as pas le wudu, tu l'as pas bien fait, il te manque quelque chose, tu vas faire ta prière sans wudu, ta prière, elle est partie là. Il dit, tu n'écoutes pas, t'as fait ton wudu, une fois, tu sors, tu vas, et tu désobéis au diable, et tu fais pas attention à ce qu'il te dit, tu n'y prêtes pas attention, et tu pries. Il dit, de même sorte, il y a des gens qui ont des problèmes quand ils vont aux toilettes. Ils vont aux toilettes, ils ont des problèmes de wasawis par rapport à la souillure. Ils croient qu'ils ont de la souillure en permanence sur eux. Et le shir, il oriente vers une sunna. Une sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam afin de se prémunir des insufflations diaboliques liées à la purification par rapport au wudu. Par rapport à la purification, enfin. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que si l'un d'entre vous a fait son besoin, c'est-à-dire qu'il s'est soulagé, il dit après qu'il s'asperge, c'est-à-dire qu'il prend de l'eau et qu'il asperge son vêtement, l'intérieur de son vêtement, avec de l'eau. De telle sorte que si le shaitan lui fait croire qu'il y a une goutte d'urine, c'est-à-dire que quelque chose s'est écoulé de lui, il le repousse en disant « Non, la fraîcheur que je sens, ce n'est pas les gouttes d'urine, ce n'est pas une souillure qui est sortie de moi, mais c'est l'eau que j'ai éclaboussée tout à l'heure dans l'intérieur de mon vêtement. » Et comme ça, il met une entrave entre lui et les waswas du shaitan et il n'y prête pas attention. Il faut repousser le waswas et continuer. Parce qu'il y a des gens, des fois, il se peut, ils sont affectés dans le waswas, après dans la salah. Ils recommencent les salawats. Il se peut qu'il va prier. Dhuhr, Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha. Il rentre chez lui, il les refait toutes. Parce que pour lui, toutes les cinq qu'il a fait, elles sont bâties, elles sont vaines. Il n'a rien fait. Et il recommence les salawats. Il se durcit la chose pour lui-même. Et il dit, ça peut être une forme de problème mental. C'est une maladie mentale, le fait de tomber dans ces choses-là. Donc il dit, la personne ne doit pas prêter attention aux insufflations du shaitan. Billahi ta'ala, at-tawfiq. شيخنا السلام عليكم هل للأولياء عندهم نعم من الله كمثلا يأتي بشفاء لغيرهم أو يعرفون الغيب أو يعرفون يعني ما سيكون في المستقبل
هذا الأولياء الشيطان اللي عندهم علم الغيب ويشفون يعالجون هذا أولياء الشيطان ما هم أولياء الرحمن أولياء الرحمن ما عندهم شيء من هذا فهم يبرقون من هذا نعم
La question, est-ce que les saints peuvent avoir des grâces d'Allah comme le fait de guérir les gens ou de connaître l'invisible, ce qui est caché, plus approprié de dire ce qui est caché, et le futur? Cheikh, il dit ça, ce sont les alliés du diable, ces gens-là. Les alliés du tout miséricordieux, les gens de piété, n'ont pas ce genre de choses. Il y en a le fait de guérir les gens, de connaître l'invisible ou de connaître le futur, ceci ne fait pas partie des caractéristiques des alliés du tout miséricordieux, mais ceci vient plutôt des prétentions des alliés du shaitan. Il y a un peu de temps. Fi mat'am fihi musiqa.
La maïus. Khuruj fi l'aklak ou rahkul fi mouda hadika fi aïe mkana.
Khud ta'am ou yakul fi
mat'am. Khud ta'am ou yakul.
La question, peut-on manger dans un restaurant où on y entend de la musique? Le shaykh Hafizallah répond, non, ceci n'est pas permis, il prend la nourriture et il mange dans un autre endroit différent de celui-là dans lequel la musique n'est pas jouée. Inch'Allah, il y a des gens, ils sont motivés, ils écrivent deux fois la même question. Je dirais, ils veulent multiplier les probabilités, Inch'Allah. Ou bien peut-être, Inch'Allah, il y a des gens, ils ont eu la même fikra, ils ont posé la question. Allah a'ala. Allah m'a barak fihim.
خير الأسئلة الخفيفة. صح. حاضر عليه. أسئلة اللي بالعربي هذا كدرس.
بالعربي تدرس. سبحان الله. سؤال يعني مهم. يعني مرأة تسأل عن حالها هي متزوجة منذ 10 سنين وعندها ولدين وزوجها يعني عنده شهوة يعني ضعيفة لا يأتي إليها يعني كثير وهو يناسبه هذا الحال ولكن هي ليست راضية بهذا الحال وهي يعني تشتغل بالبيت والأهل والأولاد هي ليست راضية بهذا الحال
وهو يعني ابتعدت عنه بسبب ذلك لا يأتي إليها يعني بسبب الشهوة الضعيفة ف وبين سوى ذلك يعني هو جيد وما عند وما بينهما يعني مشاكل إلى آخره سوى هذا الأمر فما نصيحتكم
نعم كم دخلت مدة مع الزواج
10 سنين
يعني
مع أو ولدين
هذه المرأة يعني صبرت ما شاء الله 10 سنين ثم يعني هذا الرجل ينبغي أن ينظر في حاله ولا سيما نحن في هذا الزمان ما أسهل ما يعني يعالج نفسه في هذه المسألة الآن انتشرت مقويات وأشياء تعينه على هذه المسألة تجعله يعني يعطيها حقها بالكامل وزيادة كمان فينبغي أن يهتم بهذا الأمر لكن الرجل يظهر أنه يعني عنده حالة نفسية يمكن أو شيء من هذا القبيل على كل حال إذا رأت أن حالها مع الرجل يحصل لها منه فتنة تبدأ تعلق بالرجال الآخرين تبدأ تنظر في أمور توقعها في فترة فعليها تندره تقول أعطيك مدة سنة على إما تصلح نفسك أو أتركك لا تظل هكذا تفتدني بعدين فأنا أعطيك مدة الآن سنة إذا كان تستطيع تصبر وإذا كانت لا تقول له مثلا 5 شهور تعطي مدة معينة التي ترى مناسبة الآن فإن أصلح من حالي ولا جاز لها أن تطلب الطلاق فإن رفض الطلاق رجعت القاضي الشرعي لأن البلاد فيها شرع فالقاضي هنا يراجع المسألة فإذا وجد كلامه صحيح أمر بالطلاق إن أبى فسخ القاضي ونسخ القاضي وإذا كان في بلاد يعني ما يوجد فيها قاضي فمن حقها أن تخالعه تدفع له المهر وتفارقه نعم
السلام عليكم الحالة أول يعني إذا يعيشون يعني في بلاد مسلم يعني تأتي إلى يعني الحكومة القاضي
وهو القاضي القاضي
نعم يأتي بالنص
يعني بعد المدة اللي عندرته
نعم
ما حصل شيء تمر بالطلاق ما طلقها ترجع إلى القاضي الشرعي
نعم وإذا يعيشون في بلاد الكفر يعني يأتي بخلو
تأتي المهر رفض خالد طلع
تأتيه المهر ثم
خلاص
جزاكم الله خير Donc la question est assez longue. Donc je m'excuse par avance de la longueur de ma question. Voilà plus de 10 ans que je suis marié et nous avons 2 enfants, alhamdulillah. Seulement voilà, mon mari est une personne qui n'éprouve que très peu de désirs charnels. Ceci est sa nature, de ce fait je me suis éloigné de lui. Aussi je m'occupe du mieux que je peux de ma famille et de la maison, mais il ne me donne que très peu de considération. Cette situation lui convient, mais moi je suis malheureuse. Je ne souhaite pas me séparer de lui et alhamdulillah nous disputons peu. Pourriez-vous me donner un conseil s'il vous plaît ? Le cheikh Hafizahullah Ta'ala m'a demandé de répéter depuis combien de temps elle est mariée. Je lui ai dit 10 ans. Et le cheikh, il dit, Mashallah, elle a patienté. Il dit, donc il faut que ce mari-là, qu'Allah lui préserve et lui facilite dans ce qu'il aime et agrée, il faut qu'il prenne l'affaire de sa femme en situation et qu'il prenne en considération la situation dans laquelle il se trouve vis-à-vis de sa femme et de leur situation commune. Et il dit, de nos jours, le cheikh a fait une allusion vis-à-vis du fait qu'il y a des choses qui ont été inventées qui aident l'homme à avoir une capacité physique plus intense vis-à-vis de son épouse afin de donner ses droits à son épouse en matière de rapport charnel. Et même plus que ça, c'est-à-dire qu'il peut redevenir normal et même plus que ça, il y a des remèdes qui ont été mis à disposition des gens pour cela. Il dit, elle pourrait commencer à dévier, c'est-à-dire qu'elle commencera à penser à d'autres hommes, à vouloir, entre guillemets, aller voir ailleurs et qu'elle serait tentée de tomber dans la fitna vis-à-vis des autres hommes du fait que son mari ne lui donne pas ses droits en matière de relations intimes. Donc de ce cas-là qu'elle lui donne un ultimatum. C'est-à-dire qu'elle lui dit, elle lui donne 1 an. Si elle est capable de patienter 1 an, afin qu'il ait le temps d'arranger sa situation. Le médecin ou quoi que ce soit, il trouve un moyen d'arranger cette situation afin de lui donner son droit et de la satisfaire. Et donc elle lui donne 1 an. Si elle n'est pas capable de patienter, un mois, elle lui donne un certain nombre de mois durant lesquels elle est capable de patienter. Si au bout de la durée de l'ultimatum qu'elle lui a fixé, il n'a pas arrangé sa situation, alors elle lui demande le divorce. Et s'il ne veut pas lui donner le divorce, c'est-à-dire qu'il refuse de lui donner son divorce alors qu'elle est dans son droit de lui demander cela et de légitimer sa séparation, alors s'ils sont dans un pays musulman, elle retourne vers le juge qui va procéder à ce qu'on appelle un nasr, c'est-à-dire qu'il va abroger
le mariage en question, même si le mari n'est pas d'accord. C'est-à-dire qu'il va prendre en compte la situation du mari, la situation de l'épouse, il va juger sur la situation, et s'il juge que la femme est dans son droit de demander le divorce, c'est-à-dire que sa demande de divorce est légitime, il va procéder à l'abrogation du mariage. C'est-à-dire que le mariage est dissous, et de ce fait, cette femme devient à nouveau libre de se marier avec qui elle le souhaite parmi les musulmans qui ont la religion et le bon comportement. Et s'ils ne sont pas en terre d'islam, alors elle peut demander ce qu'on appelle al-khula, c'est-à-dire qu'elle lui remet sa dot, elle lui rend sa dot, et elle est alors séparée de lui.
Donc il t'apprend bien, il voit juste chose. Sur Abba, il le fait par Abba.
Ouais.
T'apprends on y a
des choses. Italien.
Eh non.
Alors, ça il dit que le, إذا جاء رجل خطبة امرأة وخلال مقابلة للتعارف اشترطت الفتاة شروط والرجل كذلك ولكن الرجل يحقق شروط من شروط بعض شروط حققها الرجل أوفى بها. والشرط الثاني أو الثالث لم يحققه يعني خلف مع العلم أنه يستطيع وقد حصلت الموافقة على الزوج والموافقة على الشروط هذا
يعني تزوج وافق على شروط
حصل يعني لقاء بينهم هذه هو إيش النظرة الشرعية فحصل الشروط من المرأة وشروط من الرجل ولكن الرجل لم يوفي بعض الشروط التي هي عليه اشترطوا عليه أن يفعل كذا وكذا 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 بعض الشروط وفى بها وبعضها لم يوفي بها يقول يعني ما حكم من يخل بعض الشروط الموافق عليها من الزوج من قبل الزوجين يعني هي لها شروط وهو له شروط فهي ثم بتكون أخلت وأخل فما هو يعني موقف من ما يخل من الشروط هذا
وفق على هذا تزوج
نعم هو هي شيء اشترطت وهو اشترط
نعم
وهي وافقت على شروطه ووافق على شروطها نعم. لما قال بعد الزواج حصل نقول ما وفق بشروط كاملة بعضها وفق بها وتركت بعض هو كذلك
طيب. يعني la question lors d'une khitba c'est-à-dire lors d'une assise dans le but d'une vision qui est légiférée c'est-à-dire qu'un homme qui souhaite demander la main d'une femme demande la permission d'être en présence de son mahram afin de pouvoir l'observer afin de voir ce qui pourrait lui plaire chez elle et le pousser à l'épouser. Lors de cette rencontre et de cette assise afin de faire connaissance, la fille a émis des conditions et l'homme a émis des conditions et l'homme respectait, a accepté les conditions de la fille avant le mariage. La fille a posé des conditions, elle a dit qu'il était d'accord, etc. Puis après le mariage, il n'a pas respecté toutes les conditions qui avaient été posées. C'est-à-dire que s'il y en avait par exemple trois, il en a respecté une, les deux autres, il ne les a pas respectées. Donc le chef est questionné par rapport à justement le jugement de cette situation-là. Personne qui était d'accord sur les conditions, puis ne respecte pas l'entente, et après le mariage, ne respecte pas ce à quoi elle s'était engagée vis-à-vis de son épouse. Non, monsieur.
الشروط في الصلاة في الزواج في النكاح جائزة لكن على أن تكون شروط ليست فيها مخالفات شرعية مثال مثلا رجل قال تزوج فلانة وشرطي أنها لا تحتجب عن أخي أقول لا تحتجب عنه وهي قالت أنا أشترط كذلك أن تسمح لي أن أتبرج هذه شروط باطلة ما يجوز من أولها لكن اشترط المرأة قالت أنا أقبل أن تتزوجي لكن بشرط أنك لا تتزوج بعدي ثانية لا تتزوج بعدي ثانية هذا له الحق أن يقبل لها حق أن تشترط وإذا قبل وجب عليه أن يوفي قبل يقول قائل طيب هذا زواج الثاني في الشرع موجود يجوز يعني شرعا وكيف يقبل كيف تقول هذا شرط جائز تقول هذا شرط جائز و لها الحق هذه هي قالت أنا ما أتحمل يعني عندي غيرة ما أتحمل بأنك تزوج ثاني فإذا وافق وهذا يجوز أن يوافق إذا تزوج عليها ثانية أو هم يتزوج يقول أنا سأتزوج ثاني يقول لا أنا بيني شرط لا تزوج قال والله أنا أرغب ما عندي لا بد أن أتزوج هنا إما أن توافق تتنازع عن شرطها الحمد لله تبقى معه أو تقول لا أنا ما أستطيع طيب ماذا يقول طلقني كان بغى أن يطلقها رفض أن يطلقها لا الحق أن تفسخ دون أن تدفع له ولا ريال لا الحق لأنه معلم بالشرط فهنا تفسخ وتذهب إلى بيت أبوها وخلاص انتهى الموضوع ولها حيضة واحدة إذا حلق ما تسوي بعد ذلك. هل فائدة الشرط؟ إذا نحن نقول الشروط هذه ما كان معتبرا شرعا من قبلها أو من قبله تم عليه زواج ثم نكل أحدهم بالشرط، فإن قبل الطرف الثاني نقول يقبل معلش أنا أقول شرط ولكن أتنازل عنه، لا بس إذا لم يقبل أو يقبل يتنازل فمن حقها أن تطالب الطلاق أو أنه يطلقها أو أنه يخالعها يقول أنت خالفت الشرط وأنا الآن أطالب منك بخلع أن تدفعي المهرين من حقه هذه، وتحتكي مالي إلى قاضي كانت بلاد مسلمة تحكم بينهم، إذا لم تكن كذلك احتكم إلى أهل العراق في بلادهم الذين ويفصلوا بينهم هذا المسألة. المبنى هذه شروط جاهزة والثبات عليها جاهز، إلا لا يعني يتنازل أحدهم من أهل الشروط، فإن لم يتنازل جاز الآخر إما يطلق أو أنه يفسر أو أنه يخالع بين هذه الثلاث أمور.
يعني إذا مثلا المرأة لا توافق الشروط التي يعني قبل الزواج،
إذا لم توافق ما يتمز النكاح خلاص،
ولكن يعني الرجل بعد ذلك يعني هي وافقة ثم لا تأتي بشروط من الرجل بما يعني وعد قبل الزواج، الرجل يقول بخلوع لا وهي تعطيه المهر له. Le chef, il aborde une question que j'ai déjà traduite précédemment par rapport au fait de quelqu'un qui ne respecte pas les conditions du mariage. Il dit le fait, déjà, il aborde le jugement du fait d'émettre des conditions dans le zawaj. C'est-à-dire que des personnes, avant de se mettre d'accord sur une union, ils établissent des conditions. C'est-à-dire, moi, je t'épouse à condition que telle chose, telle chose, telle chose. Parmi les exemples qu'il a cités, il a donné l'exemple, par exemple, si une femme, elle met comme condition à son mari de ne pas en épouser une deuxième après elle. Par exemple, elle a le droit d'émettre cette condition-là. Si le prétendant accepte, il est obligé de la respecter. Il peut dire « moi je ne veux pas » et du coup il renonce à cette union. Et s'il accepte, il se doit donc de respecter cette chose-là. Par exemple, si l'homme a accepté d'épouser telle fille, fille de Foulem, mais avec condition qu'il ne se marie pas à une deuxième femme, et que par la suite, il dit « non, moi je ne peux pas patienter, etc. Je désire... » il y a avoir une deuxième union, etc. Elle est légitime de demander le divorce pour ça. Et si jamais il refuse de la divorcer, elle peut rejoindre, les porter son affaire au qadi, au juge, qui procédera à la dissolution du mariage. Et après ce nasr, il suffit qu'elle ait ses menstrues une seule fois, et après, elle peut à nouveau se marier avec qui lui plaît parmi les musulmans de religion et de comportement. Et dans le cadre où, par exemple, le mari viendra à contrevenir à une condition qu'il s'était engagé à respecter, mais qu'elle, elle passe l'éponge, entre guillemets. C'est-à-dire qu'elle lui pardonne cela, et la vie conjugale peut continuer. Mais en cas contraire, c'est-à-dire qu'elle n'accepte pas, qu'il ne respecte pas son engagement sur lequel il s'était engagé précédemment avant le mariage, elle est dans la légitimité de demander le divorce, comme on l'a expliqué précédemment. Et dans le cas où c'est la femme qui ne respecterait pas les conditions sur lesquelles il y a une entente entre les deux parties, dans ce cadre-là, alors l'homme peut demander à la femme, par rapport à la femme, que soit procédé al-khulu' et qu'elle lui rende sa dot. Et ils seront donc divorcés par cela.
يعني أحد الناس يعمل عند الدولة والدولة اشترطت عليه أمور منها أن لا يعمل عند الغير في وقت الفراغ، وافق على ذلك ثم يشتغل بالخفاء، هل يجوز هذا؟ وهل مال يكسبه هذا حرام؟ نقول لا، طالما أن الشرط اشترطوا عليه، أنت الآن مثلا تعمل في وظيفة معينة عند الدولة وهذه الوظيفة مشروعة ليست محرمة، واشترطوا عليك أن لا تعمل هذا العمل عند الغير في وقت فراغك، ووافقت على هذا خلاص التزم، لأن عملك عند الغير تبذل جهد فيه وأنا مطالب بجهد، فإذا رحت تعمل هذا وهذا جيت أنا ما عرفت اشتغل تعبان لو تنام في العمل، فإذا أنت وافقت على هذا والشرط يعني ليس فيه مخالفة شرعية وجب عليك أن تلتزم، فإذا اشتغلت عند آخر بالخفاء وكسبت مال هذا المال حرام ما يجب، يجب أن تتوب إلى الله تعالى، والمسلمون عند شروطهم، هذا يقول الرسول المسلمون عند شروطهم، وأيضا بالحديث أدي الأمانة إلى من أتمنى، أنت الآن بينك وبين عبد برضاك وبرضاك الأمانة، ولا تخون من خانك حتى لو خانك لا تخون أنت، هكذا والرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
La question, monsieur a déjà la question, yani une personne travaille dans un poste gouvernemental dans lequel il est sous l'égide du gouvernement et dans lequel il a été placé comme condition sur lui qu'il ne travaille pas dans un autre endroit durant son temps libre. Le cheikh il dit, dans ce cas-là, si tu travailles dans un, tu fais du travail au noir comme on dit, yani tu fais un travail caché, travail dissimulé comme on dit, le travail dissimulé, alors que tu t'étais engagé auprès du gouvernement à travailler pour eux et à ne pas travailler ailleurs durant ton temps libre, dans ce cas-là, ce que tu fais, c'est haram. Car si tu t'engages à t'engager dans un travail dans lequel a été émise une condition qui respecte la législation d'Allah Azzawajal et qui ne contredit pas la charia ou ne t'est pas demandé quelque chose de haram, et qui t'ont demandé dans ce cas présent de ne pas travailler ailleurs durant ton temps de repos, ton temps libre, tu te dois de respecter cela. Et si tu travailles dans ce travail qui est dissimulé durant ton temps libre, ton argent n'est pas licite. Et il a amené le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il expliquait que les musulmans respectent les conditions. C'est-à-dire que quand il s'engage dans une chose, le musulman ne trahit pas sa parole et ne revient pas sur sa parole. Et il ramena le verset dans la traduction approximative de la parole d'Allah Azza wa Jal et donnait leur dépôt à leurs ayants droit.
يعني سؤال عند أحد يرى أنه لأن هذه أسئلة أكثرها آلها بالذهب أو يمكن، وإذا كان هناك سؤال عند أحد موجود يعني يرى أنه هو يسأله وهو موجود يسأل، يكون هذا أفضل إن شاء الله.
الشيخ حفظه الله يقول qu'il y a beaucoup de questions qui sont encore présentes sous forme de papier, mais il dit si l'un de une des personnes parmi les personnes dans l'assistance a une question yani primordiale de première importance qu'il voudrait adresser au cheikh afin d'avoir la réponse, alors qu'il procède alors à procéder à la question.
Et qu'on n'a qu'un seul visa, est-ce qu'on a le droit de rester dans le pays mécréant, mais en étant clandestin? Tout en sachant qu'en fait, c'est
pas. Ah, bah, rester dans le pays mécréant,
musulman.
Donc,
moi, admettons, je décide de partir. Je prends un visa parce que je n'ai pas le choix de rentrer dans un pays musulman, il faut un visa. Mais ce visa expire, et moi, je veux rester parce que je peux retourner. Et donc, je suis clandestin, dans le pays musulman. Et on ne me revient pas, moi, il va. Mais moi, je veux rester absolument, je veux rester caché.
Les gens, ils posent des mines, subhanallah. Non, mais ça. Soit le
Allez, pas tout le monde.
Cheikh, يسأل أريد أن أهاجر وعندي من النقود ما يكفيني لأجل أن أخذ فيزا واحد وبعد يعني فيزا لي مثلا فيزا لمدة
خروج يعني خروج يعني
لا لدخول يعني يهاجر من بلاد الكفرية إلى بلاد الإسلام يدفع لأجل أن يسكن تحت يعني شرف الإقامة يشتري إقامة لثلاثة شهور مثلا ثم ما عنده نقود يكفي لأجل أن يجدد هل أستطيع أن أبقى يعني وأبقى بدون إقامة في بلاد المسلم
وهو لا يريد الرجوع
نعم
جزاك الله خير.
أنا أقول لك توكل على الله. اذهب. وإذا وصلت هناك وجلست في بلاد بلغ الدولة اللي تبدأ فيها. قل لهم أنا هارب بديني مثل ما هرب الصحابة من مكة بدينهم. وأنا صادق وانظروا في حالي. لعل الله يرتب كل هؤلاء ويعطوك جنسية تلك البلاد. يقولوا هذا رأي المهاجر. هذا ذكرنا بالصحابة المهاجر ومن توكل الله تعالى أعانه فأنت أنوي هذا واذهب إذا كان ذهب جلس الأشياء وقال ما في الله يلا برد روح إلى أي بلاد ثانية أخرى وانزل السلام عليكم أنا مهاجر بلاد ثانية ثالثة لازم تجد من الخير من يقبل من هذه الدول وتحرر الدول التي يعني لها سمعة طيبة في هذا لن يعني تغلب ولن يخيب ظنك والله تعالى سيكون يسر لك بإذن الله تعالى. الله تعالى يحب عباده من يسعون إليه ويعينهم. قد تبتلى في الأيام الأولى في البلد الأولى تبتلى حتى يظهر صدقك. وإذا صدقت صدقت الله تعالى أصدقك. عرفت يا أحمد؟ قل له هذا طبعا السؤال خاص بالذي بلاده بلاد الكفر، ليس من بلاد ولا من الجزائر ولا من تونس ولا من اليمن ولا من هذا بلاد أولى. ايش تسوي؟
Donc la question du frère, Hafizahullah, yani, est-ce que je peux émigrer des terres de mes créances afin de me rendre dans un pays parmi les pays musulmans et je paye de ce qui me permet de légitimement résider un certain temps dans ce pays, puis je reste de façon illégale, de façon clandestine dans ce même pays car je ne veux pas retourner en terre de non-musulmans. Le cher, la première chose qu'il a dit et recommandé au frère, c'est place ta confiance en Allah Azzawajal, émigre, paye ton visa, émigre. Puis ensuite, une fois que tu es arrivé, informe le gouvernement de ta situation. C'est-à-dire que tu es un muhajir et que tu ne peux pas renouveler le visa, etc. Et fais-leur le rappel vis-à-vis de la situation des Sahaba lorsqu'ils ont émigré et qu'ils ont émigré de la terre mécoise jusqu'à la terre médinoise. Et il se peut qu'Allah Azzawajal, par cette cause-là, Allah Azzawajal peut peut-être attendrir leur cœur. Ça peut même aller jusqu'à ce qu'il te laisse résider et te donner même jusqu'à la jinsiya, yani la nationalité. Et il dit, et celui qui place sa confiance en Allah Azzawajal, Allah lui viendra en aide. Donc il dit, et si jamais ils te disent non, après avoir pris connaissance de ta situation, nous ne voulons pas de ta présence dans notre pays et nous t'intimons l'ordre de quitter nos frontières, de quitter notre territoire, alors dans ce cas-là, obéis et quitte ce pays et va dans un autre pays. Va dans des pays, Inch'Allah, où tu trouveras du khair et des gens qui pourront t'aider. Et Inch'Allah, Allah t'aidera. Il se peut que tu seras éprouvé par Allah Azzawajal, qu'Allah Azzawajal t'éprouvera afin de faire apparaître ta véracité dans ta prétention de vouloir émigrer cherchant la face d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et puis, si ta véracité apparaît et que tu es sincère envers Allah, Allah Azzawajal te pourvoira bien s'il le veut, subhanahu wa ta'ala. Mais il dit, ce que le shir a dit, ceci est limité. Les shir sont limités pour les gens originaires de pays non musulmans. Car les gens qui sont d'origine de pays musulmans, bien sûr, la hijra pour eux, c'est de retourner à la base dans leur pays dont ils sont d'origine et dont ils sont porteurs de la nationalité.
وانا اعرف اليمن ما كانت ترد حد مهاجر قبل هذه الاحداث اللي تجري فيها الان نسال الله يفرج عنها ما كانت ترد مهاجر ابدا في عهد العلامه الشيخ بقبل رحمه الله تعالى كان ياتي من كل بلاد العالم من كل بلاد العالم جاي اليه واجتمع ما يقارب يعني عشرات الالاف من الشيخ رحمه الله تعالى اكل شارب ولا يسالونك اقامه ولا شيء بل اذا احد اليمنيين قال لك يا اجنبي يسيرونه والمسلم تقول له اجنبي احنا العجيبه عندنا كافر فنسال الله يفرج مثل هذه الدعوه وثاني ممكن في بلاد اخرى كذلك في مثل هذه الحاله تقبل من يهاجر يعني مدينه ويطلب العلم وهكذا نسال الله يكسر هذا نعم.
Le cher mentionne qu'il donne l'exemple en fait de ce qui s'est passé à Damaj. Des gens qui venaient du monde entier pour voir l'allama, le muhaddith, Abu Abdurrahman Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, rahimahullah, le muhaddith qui enseignait dans la région du Yémen à Damaj. Les gens venaient pour étudier avec le cher l'allama Muqbil, rahimahullah, jusqu'à ce que ça atteint jusqu'à 4000 étudiants. Et ils mangeaient, ils buvaient et ils n'avaient même pas à dépenser d'argent. Et Allah leur a ouvert des portes. Dans ce sens-là, le cher, il encourage au fait de placer sa confiance en Allah, de faire les causes. Non. Du langue français, en fait. Je peux te dire,
Inch'Allah. قلنا المسلم في كل موضع في العالم ينبغي أن يعني يؤدي كل الواجبات التي عليه من فرائض ومستحبات وخاصة الفرائض لا بد أن يؤديها. المستحبات لو تركها لحال معين أو شيء إن شاء الله تعالى سأل الله يتجاوز عنه، لكن الواجبات والفروض لا بد أن يؤديها. فإذا منع منها أو أودي فيها وجب عليه أن يهاجر، ما يجوز له أن يجلس أبدا. فإذا جلس فعليه وعيد في آية في سورة النساء، وهو عليه عذاب أليم يوم القيامة يعده ويقال ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها، يقول كنا مستضعفين ما يقبل منه هذا. إذا هنا معنا أمور فرائض واجبات إذا تركتها تأثم وتعذب عليه بالقيام عذاب شديد، لأن هذا من وجوه ظهور الدين. لكن إذا كان دينك ظاهر وتؤدي فرائض الأمور ثم وديت في مسائل أخرى مستحبات هذا وصبرت، تكون هجرة الحق مستحبة ليست واجبة، أما في الأول يكون واجبة. نعم.
Juste traduire, après tu comprends peut-être. Zaka la paix.
Qu'est-ce qui
Yorid en Yazid.
Ah, man Yazid.
Quoi
Isma, jawab.
Ma n'a pas retenu tout, yani jawab.
Ah, t'es, t'as dit.
يقول لك لا
يسمى دعاء
في السماء الدنيا،
او
صحيح هذا الكلام؟
ليش ما
يصير لاجل اقامتني بهذا او يجب علينا
الهجره؟ المسلم حيثما يكون يدعو، اذا كان دعاء بغير هجر ولا اثم يقبل الله تعالى منه. اي لا، هذا كلام غير صحيح.
Donc le cheikh hafidhahullah ta'ala il a été questionné par rapport au fait que les gens qui font leurs adorations en terre non musulmane alors qu'ils n'émigrent pas, alors qu'ils en ont la capacité, est-ce que ceci diminue de leur récompense? Le cheikh a dit que quel que soit l'endroit dans lequel tu te trouves, tu te dois d'accomplir et de t'acquitter des obligations qu'Allah azza wa jalla t'a rendu obligatoires. Cela dit, celui qui vient à délaisser des surrogatoires pendant un moment, etc., il n'a pas à rendre des comptes dessus, il n'est pas châtié pour cela. Cependant, il dit que si la personne vit dans un pays dans lequel il n'est pas possible de faire ce qu'on appelle izhar al-din, c'est-à-dire de rendre le din manifeste, c'est-à-dire de manifester sa religion de manière complète et ouverte, sans aucune limite dans sa pratique religieuse, il dit si la personne est oppressée dans sa religion et qu'il ne peut pas la pratiquer, alors il devient obligatoire d'émigrer. Et celui qui n'émigre pas alors qu'il a la capacité d'émigrer et qu'il est opprimé dans sa religion, c'est-à-dire qu'il reste, malgré le fait qu'on l'empêche de pratiquer sa religion, il reste, dans surat al-Nisa, Allah Azzal a fait la mention de la menace d'un châtiment pour ceux qui sont dans ce cas-là. On ne parle pas de ceux qui ont une excuse légitime pour résider en terre de non-musulmans. Et de plus, le shir'i dit donc le critère, ça va être par rapport au fait de rendre apparent ta religion ou pas. Si tu es opprimé et oppressé dans ta religion de telle sorte que tu n'es pas capable de rendre apparent et de pratiquer ta religion de façon complète et ouverte, dans ce cas-là, tu te dois d'émigrer. Sinon, la hijra t'est recommandée. C'est laquelle en premier? Ah, mais il n'y a pas une qui devant? Celle-là?
Non.
Ça, c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu. Fi usra muslima, ahad min al-awlad, hadatha mashakil, bainahu wa bain al-abawain, wa bain al-akhawat, wa al-ikhwa. ولا يستطيع يعني المكالمة بينهم صعب قريب من العدم لا يستطيعون. وهذا الولد هذا الابن يقول أنه ليس مستعد للرجوع للمكالمة مع الأهل والرجوع إليهم، وهذا الحال يعني يحزن أهل يعني أصحابه لهذه الأهل الأسرة ويريدون الإصلاح. فهذه الأسرة كيف يتعاملون معه هذا الابن، كيف يتعاملون معه، وكيف ما هي الأسباب تعينه على الرجوع في حاله الأول يعني الصلاح إلى آخره أو يتركونه؟
الإنسان إذا كان وقع في اختلاف مع الناس يتفاوتون، في ناس لهم درجة عظيمة عندك أمرك الله بذلك، ذاك الخلاف بينك وبين والديك لا ينبغي أن يكون خلاف، وأي خلاف تخلقه في هذا الموضوع أنت مخطئ حتى لو كانوا هم مخطئين، وينبغي أن تتذلل لهما، تقبل الصلح معهما وتتنازل عن كل ما يملو عليك بشرط أن لا يكون في إفساد في دينك، وجب وجوبا عليك. لا تركب رأسك تقول لا هم ما عملوا لي كذا أنا ما أقبل، لا، ما دام الوالدين ينبغي أن تخضع تذل لهما، ولو فعل أثير ما فعل، ضربوه وشتموه أفعلوا فيه كل شيء، إذا أرادوا الإصلاح وجب عليك أن تقبل. المهم لا يكون في شيء فيه يعني حيف في دينك لا تقبل هذا، أهم شيء الدين يعني. وكذلك من بعدهم من ذوي قرابك أعمامك أخوالك وغيرهم بالدرجات. فتبدأ أولا بالوالدين، شأنه مهم جدا، لا بد أن تصطلح لهم طالما أنهم يريدون الصلح. وإذا كانوا لا يريدون الصلح وهم على خطأ وأنت على حق، استعن بالغير حتى تقنعهم، هذا من الدين، ينبغي أن يقبلوا الخير ويعتمدوا في الغيب وهكذا. نعم.
La question. Dans une famille musulmane, un enfant est en conflit avec ses parents, ses frères et ses sœurs, et le dialogue est très difficile, voire même impossible. Cet enfant n'est pas prêt à rencontrer sa famille. Cette situation attriste tous les membres de la famille qui souhaiteraient arranger les choses. Quel comportement doit adopter cette famille vis-à-vis de lui? Comment faire pour qu'il redevienne comme avant, ou laisser tomber et alors ne rien faire? Le cheikh dit déjà, les conflits qui existent entre les gens sont de différents degrés, car les gens divergent dans leur statut vis-à-vis de la famille. Il dit quand, par exemple, il subsiste, il apparaît un conflit entre l'enfant et les parents, même si les parents sont en tort, c'est l'enfant qui est en tort. Dans le sens où, même si c'est l'enfant qui est brimé, qui subit une injustice de la part de ses parents, il n'a pas à relever la tête contre eux et à leur répondre, etc. Il rabaisse sa tête, il baisse la tête, il rabaisse l'aide de l'humilité vis-à-vis de eux, il fait preuve de bienfaisance envers eux. Et si il s'obstine contre eux, tant que ce n'est pas quelque chose dans lequel ça le touche à sa religion, il patiente et il doit chercher l'islah avec eux. S'il ne cherche pas l'islah avec ses parents, alors que c'est une affaire qui n'est pas touchée, qui ne touche pas sa religion, il est dans le péché. Il n'a pas le droit. C'est lui qui a tort. C'est lui qui a tort dans cette affaire. Même si à la base, eux, ils ont tort. Il donne l'exemple, par exemple, si tu reçois par exemple de tes parents, ils te frappent, etc., tu patientes. Tu patientes. Tu dois faire preuve de bienfaisance envers eux. Tant que ça ne te porte pas atteinte et que tu n'as pas peur dans ta religion, par rapport à ta religion en elle-même. Tu dois patienter, et ils sont en tort, tu cherches l'islam, tu cherches la réconciliation, tu cherches à améliorer les choses, afin que les choses redeviennent comme avant et que les choses s'améliorent. Tu dois faire preuve d'humilité dans ces choses-là, et ainsi tu donnes la juste interaction avec tout un chacun, en premier lieu les parents, et ensuite le reste de tes proches. Tu cherches à ramener la réconciliation et l'harmonie parmi les gens de ta famille. مسلم طيب وهو يطعن يطعن في الأبوين يعني لأصحابه يعني يتكلم في الأهل في غير الأبوين يتكلم معهم ويطعن فيهما ويتكلم مع يعني أصدقائه ويطعن فيهما وهذا بلغ يعني هذا الطعنات هذه الطعنات بلغت يعني الأبوين ويحزن بسبب ذلك هل هذا الرجل هل نستطيع أن أقول أنه مسلم طيب ويفعل ذلك؟
أما الإسلام هو مسلم ما أنا أقول مسلم هذا مسلم يعني لا شك لكن ليس طيب لأن أول الناس بطيبتك من هم؟ والديك زوجتك أولادك أول الناس أن تكون طيب معهم إذا كان أنت طيب مع الجماعة كل الناس كل من على وجهك طيب معهم وعلى غيرك والديك فاسدة تؤذيهم تكلم فيهم تكلم عنهم أنت ما أنت طيبا أنت عندك من المصائب الله به عليك ولا يمكن شر ما نقول كامل ولا مسلم لكن عنده شر ولا سيما إذا كان هو مخطئ أما إذا كان غير مخطئ فالمسألة فيها كلام آخر طالما المخطئ يتكلم على والديه بين الناس ويخرج عليهم ويؤذيهم هذا لا خير فيه أبدا ولا يرجى خير منه بعدين لأحد حتى الذين يزاملهم ويصاحبهم ويتكلم عندهم على والديه غدا سيتكلم عليهم ويسبهم ويلعنهم يعني الإنسان ينبغي أن يكون خيره أول شيء يكون لأهله خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي فإذا كان أنت ليس في خير لأهلك متى يكون خير مثل الناس أبدا ما يكون هذه قاعدة مهمة أن يحضر الإنسان
السلام عليكم. Donc la question suivante qui est liée à la première question, c'est est-ce qu'on peut dire d'un musulman qu'il est un bon musulman alors que cette personne-là, dans le dos de ses parents, il s'adresse aux autres membres de la famille et il s'adresse à ses amis en les dénigrant et en parlant mal de eux et ses propos à leur égard parviennent à ses parents et ceci les attriste. Chéri dit, yani que cette personne, on ne peut pas dire qu'il n'est pas musulman. Déjà, on ne le rend pas mécréant par rapport à ce qu'il a accompli. Mais qu'on ne peut pas dire qu'il est bon. S'il parle de façon injuste vis-à-vis de ses parents, et qu'il dénigre ses parents de manière injuste auprès de ses amis et des autres membres de la famille, ceci n'est pas permis. Il dit, les premiers à mériter ta bienfaisance, ton bon comportement, ce sont tes parents, puis après ton épouse, etc. Mais les premiers à mériter la bienséance et la bienfaisance de ta part, ce sont tes parents et ta femme. Donc, comment se fait-il que tu peux être bon avec tout le monde, mais que tu es mauvais à l'égard de tes parents? Ça fait de toi quelqu'un de mauvais. Et tu es atteint par des choses que seul Allah en est savant. Et le chef a clôturé son explication et son conseil avec la mention d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il a dit, le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur avec sa famille, et je suis le meilleur avec ma famille. Donc il dit, comment tu peux espérer, on peut espérer dire que cette personne elle est bonne, alors que les premiers avec qui il doit être commencé à être bon envers eux, c'est leur famille, c'est sa famille, et il a manqué dans cette chose-là. Comment il pourra être bon avec les autres?
لعلنا بهذا نختم هذه الدورة ونسأل الله تعالى أن يجعل ما قدمنا جميعا بميزان حسنات الجميع وما كان من خير مما قلنا وحاولنا القول به السداد فهذا من الله تعالى توفيق وما كان من خطأ أو زلل أو شيء من حظوظ النفس فهذا من الشيطان والنفس الأمارة بالسوء ونسأل الله يتجاوز عنا ونشكر إخواننا الذين هيئوا لهذا المجلس أخونا محمد أبو حفص وأخونا أبو سمية إبراهيم وأعضاء اللجنة أخونا محمد الآخر وعلي وجميع الإخوان الذين ساهموا في هذا الأمر نسأل الله يعينهم على هذا الدعوة القائمة بها ونسأل الله يكتب لهم الأجر العظيم ونشكر جميع إخواننا الذين أبذلوا الحفاوة والود والمحبة وقدموا لنا استلاف كثيرة نشكرهم جزيل الشكر ونسأل الله أن يبارك فيهم وأعمالهم وأولادهم وأهلهم وأن يجزيهم خير عنا وعن ما حصل من هذا الخير العظيم وأيضا نشكر إخواننا الذين نقلوا هذه الدورة يعني في الإذاعات إذاعة أبي زيد الكرواني وإذاعتنا والإذاعات الأخرى يعني من مكناس وغيرها نشكرهم جزيل الشكر على هذا الأمر ونسأل الله أن يجعل هذه ميزان الجميع واعذرونا إذا قصرنا أو حصل منا شيء لا يحمل منكم فالإنسان ضعيف يصيب ويخطئ والحمد لله ونسأل الله أن يجمعنا بكم في لقاءات أخرى إنه ولي ذلك والقادر عليه صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
D'accord, Inch'Allah, l'Ikhwar, l'Ibrahim Sallam Alain, Inch'Allah, Cheikh, il peut venir, Inch'Allah, après la parole. Tu vas dire une parole, Inch'Allah.
Hein?
Tu vas traduire là?
Ah!
Celui qui veut passer, parce que demain, Inch'Allah, Cheikh, il va partir, Inch'Allah.
C'est bien, Ali.
Non.
C'est bien, tu veux le homme, Ali, Ibrahim.
Hein? Moi, regarde, l'Ikhwar, سألوني عن هذا.
أنا ما أعلم أحد سلم عليك.
هو قال لي هل نستطيع
لكن أنا كثير بيتعب بيدي. بعد رسائل. الله يبارك. صلوا خير إن شاء الله ما كنا. حياكم الله بارك الله. حياكم الله.
ترجم؟
ها؟
ترجم هذا؟
ترجم.
ترجم
طيب.
Donc le cheikh, Hafidhahu Allah Ta'ala, sur ces mots, il a conclu cette dawra et il a tenu à remercier les organisateurs, parmi ceux qui ont été parmi les causes, bi'idhnillah et azawajal, pour organiser cette dawra, Elmiya, et les frères qui tiennent les radios, les responsables des radios, à travers lesquels ont été retransmis ces différents cours, walillah alhamd, et il remercie les frères qui sont venus, qui ont assisté au cours et qui ont présenté leurs questions. Jazakumullahu khairan, nasallahu azawajal, et nasiya, khairan, anna. Demande à Allah Azza de récompenser le cheikh de notre part en paix, en bien. Sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.